Radio Courtoisie.
Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 16 mars 2005 de 18 à 21h, en différé jeudi 17, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51
82. Amis de la Résistance, bonsoir. J'arrête la musique parce que on était tous en train de roupiller. Vous nous avez fait un numéro d'hypnose, là, ma petite Victoria.
Ah, bah, bravo.
Ah, non, mais
ah,
franchement.
Un effort.
Vous n'êtes pas très en forme, on dirait.
Tout à fait, je résiste merveilleusement, là. Pourquoi?
D'un seul coup, j'ai senti toute la misère du monde s'abattre sur mes épaules.
Ah, bah,
j'ai
dit, faut que je... Ah, bah, alors.
Mais c'est pas contre vous que j'en dis, c'est contre le fait que vous avez essayé de nous endormir. C'est mon travail d'endormir, c'est pas le vôtre.
À la sauce.
Ce soir, nous avons, je signale aux auditeurs que, à partir de, qui ne m'aiment pas, qu'à partir de 19h30, ils peuvent recommencer à écouter, c'est plus moi. C'est les jeunes.
Ah, c'est les jeunes.
Les jeunes européens.
Enfin, modernes.
En attendant, on va recevoir des gens qui sont pas vieux du tout, d'ailleurs, qui sont des brillants esprits, puisque ce soir, c'est une soirée exceptionnellement intellectuelle et forte sur le plan.
Je me demande ce que je fais.
Oui, non, mais vous êtes pour rétablir un peu la balance, mon cher Marquis. Et donc, je reçois Jacques Herz, qui est historien, professeur d'université, médiéviste.
Bonsoir plutôt. Monsieur Herz.
Et après, je recevrai Charles Ridoux, qui lui aussi est médiéviste, professeur des universités. Et toutes ces sortes de choses. Enfin, bon, on arrête de... Et juste avant, je donnerai la parole pendant quelques minutes à Bruno Gollnisch, qui est lui aussi professeur d'université, mais il n'est pas médiéviste, il est nipponologue. C'est comme ça qu'on dit ?
Je ne sais pas.
Je crois.
Moi, je crois qu'il enseigne le japonais. Mais...
Et ben voilà.
Pas seulement, d'ailleurs.
Nipponologue, nipponophile, nipponolâtre, nipomaniaque. Non, pas, il est pas tellement hypomaniaque, faut bien dire.
Ah, si.
Si, il est hypomaniaque.
Nippo, j'ai
Ah bon, d'accord.
Compris, oh,
avant
quoi.
Et puis, nous aurons également, au téléphone, mon excellent camarade Goffman. Et puis le marquis que vous avez entendu. Et Victoria qui a tenté de vous endormir.
Oh, voilà. Oh, bah, dis donc.
Avant de vous parler de la directive Bolkestein, je sens que vous êtes déjà passionné. Oui. Non, parce qu'il y a une chose très très drôle, c'est que, vous savez que la directive, comme vous dites, Frankenstein a dit, Villiers qui a bien raison, c'est une directive qui consiste, en gros, à permettre à des employeurs français de faire venir de la main-d'œuvre de toute l'Union européenne et de les traiter selon leur pays d'origine. C'est-à-dire en appliquant les lois sociales du pays d'origine en France. Voilà, je crois que j'ai bien résumé. Alors, naturellement... Chirac a dit, parce que ça provoque naturellement un tsunami de protestations. Ils sont pas contents, les gars. C'est évident que le plombier qui va payer des charges en France, qui représente à peu près 87% de ce qu'il encaisse sur ses factures et qu'il va voir arriver un plombier moldovalaque qui va lui payer 2% et va pouvoir travailler pour moins cher. J'ai rien contre les moldovalaques, je m'empresse de le dire, qu'on ne voit pas dans mon propos.
Ils n'ont pas encore travaillé dans notre salle de bain, attendez.
Oui, c'est ça. Oui, c'est pour ça que j'ai rien contre eux, d'ailleurs, bien sûr. Alors Chirac a commencé à dire, ça je le lis dans présent de daté de ce matin, Chirac a dit, ça ne se fera pas, je suis contre, c'est inadmissible, etc., etc., etc. Bon. Et puis, Hollande, qui était interrogé hier ou avant-hier sur France Finter, dit à un auditeur qui lui demandait « Pourquoi, avant le référendum interne au PS sur la Constitution européenne, n'a-t-on pas parlé de la directive Bolkestein et de l'AFGCS, Accord général sur le commerce des services ?» Pourquoi n'en entend pas parler, puisque ça aurait probablement modifié, sous-entendu, le vote des militants socialistes qui ont voté oui, alors que tous les socialistes sont contre l'Europe. Alors, Hollande répond, la directive Bolkestein, il fait comme Chirac, ça se fera pas, elle n'est pas approuvée, c'est un projet, écoutez bien ce que dit Hollande, c'est un projet aujourd'hui totalement remis en cause, et soyons-en fiers, ce sont les socialistes européens qui ont permis ça. Il n'y a plus de directive Bolkestein. Quant à la GCS, Accord Général sur les Services, c'est pas dans l'Europe ça. C'est ce que veut nous faire l'OCDE. Mais là aussi, nous avons remis en cause ces principes, et pour l'instant, la menace est derrière nous. Alors, je voudrais pas, dans un parti qui s'illustre à avoir un personnage aussi brillant que Delanoë, faire des commentaires sur le fait que la menace Bolkestein est derrière eux, mais quand même, je voudrais faire remarquer que, au même moment où... Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi vous riez?
Rien,
bon.
Je ne
crie
pas.
Ah bon, ça va. Parce que vous savez qu'on n'a plus le droit maintenant. Au même moment où François Hollande disait ça, le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, lui disait la chose suivante. Alors, je vous rappelle que Chirac dit « ça ne se fera pas » et que Hollande dit « c'est derrière nous ». Et Barroso dit « oui, je suis derrière vous ». Écoutez-moi, pour les personnes, dit-il, qui n'ont pas encore remis à jour leur logiciel, c'est vraiment, se fout du monde, hein, il n'est pas question d'abandonner la directive, ni même d'éliminer le principe du pays d'origine. Voilà, c'est ce qu'il disait. Et alors, à propos de la GCS, l'accord général sur les services... dont Hollande dit c'est pas l'Europe qui veut faire ça, c'est l'OCDE. Alors, naturellement, Hollande dit une connerie, ce qui n'étonnera personne, puisque c'est le président du Parti Socialiste, donc c'est son boulot, en quelque sorte, il est dans son rôle. En fait, c'est pas du tout l'OCDE, c'est à l'Organisation Mondiale de la Santé que ça se discute, et non seulement il se trompe là-dessus, mais quand il dit que la menace est derrière nous, en fait, on est en pleine renégociation de cet accord général sur les services, ce qui veut dire que il s'appliquera de la même manière que va s'appliquer la directive Bolkestein. En gros, l'objectif, c'est de faire que dans quel que soit le pays d'origine des gens qui vont fournir des services ou du travail, eh bien, ça sera leur pays d'origine qui jouera le... qui décidera de la législation du travail. Ce qui veut dire que, si vous ajoutez la délocalisation des usines de France à l'importation d'ouvriers qui vont travailler dans les mêmes conditions que dans leur pays, c'est dans 2 ans après, c'est une catastrophe totale. C'est absolument renversant de voir qu'un type comme Hollande, qui prétend être président de la République dans 2 ans, enfin il va être candidat, il ne sait pas ça. Il a absolument rien compris. Il a probablement jamais lu la Constitution européenne. Moi non plus. Enfin, moi je me suis fait expliquer. Puis d'abord, je ne veux pas être président de la République. Je veux bien être roi de France ou dictateur, fureur, ce que vous voulez. Mais président de la République, ça m'intéresse pas tellement. Hein. Sauf que on peut faire des beaux voyages, puis on se met un peu de fric dans les poches quand même.
Oui, on enfin, vous êtes pas doué pour ça.
Non. Et alors donc, il ne sait même pas ça, et il va se présenter comme président de la République. Et ce qu'il ne sait pas non plus apparemment, c'est que le socialiste Pascal Lamy, qui était commissaire européen, n'a jamais désavoué la directive Bolkestein. Or, il est socialiste, l'ami.
Comment s'appelle le commissaire qu'on a là, qui s'occupe des transports, qui a été ministre 50 fois?
Ah oui, non, improbable.
Oui, personne. Ce matin, il était interviewé. Quand je dis interviewé, bousculé par une cabache sur le sujet, il était furieusement pour, lui, la disposition.
Ben oui, forcément. Ben, il représente le gros capital apatride.
Bien.
Les enfants de l'apatride. Il y a un truc très drôle quand même. Est-ce que vous vous êtes déjà marié en recevant votre feuille d'impôt? Enfin, votre déclaration d'impôt?
Non.
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 Ben, vous allez pouvoir rire parce que celle, comme on le sait, donc celle de cette année, elle a été accompagnée d'une lettre par monsieur Hervé Guémard.
Oui.
On n'a pas, pour faire des économies, on n'a pas refait la lettre. Moi, à mon avis, pour faire des économies, on aurait mieux fait de pas le faire ministre. Enfin, bon. Donc, vous recevez, sous monsieur Breton, une lettre de monsieur Guémard, que bien entendu, personne ne lit, et c'est un tort, parce qu'elle est très rigolote. Voilà ce qu'il écrit, monsieur Guémard. Avec l'impôt sur le revenu, nous renforcerons les solidarités au service de la croissance. Nous prenons devant vous l'engagement de vrai, pour que chaque euro dépensé en votre nom soit un euro réellement utile au service de notre pays. En tant que contribuable, vous avez des droits et nous vous devons des comptes. Et ben ça, ils sont rendus.
Ben c'est clair, voilà. Tout ça est conforme à la réalité.
On a vu aussi à la télévision, est-ce que vous avez vu l'inauguration de la mosquée de Bondy?
Ah non,
non.
Ah bon.
Très jolie la mosquée de Bondy.
Loupée à un moment.
Luxueuse et tout.
Ah non, ouais.
Et parmi la foule innombrable qui était là pour assister à l'inauguration de la mosquée de Bondy, il y avait la camarade Elisabeth Guigou, la guigounette.
Non.
Si, si, elle était là, et elle était voilée.
Enfin!
Enfin voilée, elle avait pas mis un, elle avait pas mis un tchador, mais elle avait mis un foulard noué à la,
vous m'avez compris. On a pu la voir.
Nué à la marchande de 4 saisons.
À la marchande de 4 saisons, c'est ça. Très bien.
Merci Martine Aubry, vous m'en faire autant.
Vous êtes bien aimable. Monsieur Sarkozy,
vous
savez qu'il s'est présenté, il a été élu au premier tour à Neuilly.
Mm-hmm.
Et l'élection a eu lieu le dimanche 13 mars. Donc il a envoyé une lettre, qui est partie le 28 février 2005. Le dimanche 13 mars, vous serez appelé à élire votre député. Les gens de Neuilly l'ont reçu ce matin, la lettre. Donc il devrait peut-être s'adresser à son collègue chargé de la poste. Je vois qui c'est maintenant, ministre de
l'Industrie. Il y en a plus,
ça
a explosé.
Bon ben tant pis, alors pour lui demander des explications, à moins qu'il demande à... Vous savez que le grand postier de Neuilly, c'est le camarade Besancenot.
Oui, ben il a autre chose à faire.
Donc est-ce que ça serait pas le camarade Besancenot qui a oublié un sac?
Il a autre chose à faire.
En tout cas, il y a une chose formidable dans cette lettre. Il dit, ainsi la délinquance a reculé après une longue période de hausse. Or, tout à l'heure, j'écoutais sur France Info une information, où on disait la chose suivante. Oui, oui, absolument, la délinquance a diminué. Notamment dans les territoires, dans les cités de non-droit, il n'y a plus de cités de non-droit. Je ne comprends pas comment il peut y en avoir plus, puisqu'à l'époque on nous disait déjà qu'il n'y en avait pas.
Il n'y en avait pas.
Donc s'il n'y en a pas,
une cité interdite.
En tout cas, on nous explique qu'elle a diminué. Et pourquoi a-t-elle diminué? Parce que les policiers vont de plus en plus sur le terrain. Et le journaliste ajoute. D'ailleurs, la conséquence, c'est qu'il y a de plus en plus d'agressions contre les policiers.
Oui, c'est...
C'est pas mal, quand même, hein.
Ouais.
Et plus tu pédales moins fort, et moins tu roules plus vite.
C'est mon prof de physique. Dans une logique infernale.
Voilà. Et puis, c'est quand même des belles infos. Je voudrais dire ça à tous les gens qui m'ont insulté quand j'ai dit que le tsunami avait... eu pour résultat de rapproprier le monde, comme on disait, en supprimant un certain nombre d'ordures et de tripoteurs, eh bien, on m'a dit, ouais, comment on pouvait dire une chose pareille? Ben voilà, comment je peux dire une chose pareille? À Furnes, son visage, ça c'est dans, je crois que c'est dans France Soir, c'est mon ami Marc Langelou qui m'envoie ça. C'est peut-être pas France Soir, c'est peut-être un journal belge, c'est peut-être le Soir de Bruxelles ou une affaire comme ça. Donc son visage avait fait le tour des médias, le miraculé du tsunami diffusait des photos pédophiles sur le net. Alors, on nous explique que René D., un habitant de La Panne, est un miraculé du tsunami qui a fait près de 300 000 morts. 300 000 maintenant, en Asie du Sud-Est, le 26 décembre. À ce titre, il a fait la une, oui, parce qu'en plus, il avait fait la une de tous les journaux, parce qu'il a été emporté par la vague. Il a été retiré d'une bouche d'égout par un habitant de Phuquette. Il aurait mieux fait de le laisser là, d'ailleurs. Et il avait trouvé refuge dans la montagne voisine, et trois mois plus tard... Eh bien, il a défrayé à nouveau la chronique, mais pour des motifs bien moins avouables. Il a en effet comparu devant le tribunal correctionnel de Furnes, où il est poursuivi pour avoir détenu et distribué sur Internet quelques 1250 photos pornographiques à caractère pédophile. L'enquête sociale a clairement démontré qu'aucun programme de probation n'avait la moindre chance d'atteindre son but avec un tel prévenu, a déclaré le procureur Els Wouters, qui, dans la foulée, a requis la peine maximum, soit une peine de prison de 5 à 10 ans et une amende de 500 à 10 000 euros. Ah moi, j'aurais abattu comme un chien.
Ah bah voilà, c'est QQFD.
Ouais, le couplet en deux, c'est tout.
Ah bah oui.
Et absent à l'audience, il est employé à l'étranger pour une entreprise de construction. René D., père de famille, devra attendre le 19 avril pour savoir si la justice belge le traitera avec la même mensuétude que le tsunami, nous dit notre
c'est bien la chute.
Confrère belge, qui est à preuve d'un grand talent. Voilà, c'était l'actualité que je voulais parler d'eux.
Vos auditeurs... Oui. Alors là, on a une quantité de messages sur la directive Bolkestein.
Oui.
Alors, il paraît que la circulaire dont vous parlez ne s'appliquerait que pendant des séjours en France ne dépassant pas 8 jours.
Oh là. Chante, Fifi. Alors,
elle est applicable pendant 8 jours et après, c'est la législation française.
Bon, voyons, bon, bien sûr.
Non.
Alors, vous savez ce que ça va... Comment ça, bien sûr, c'est très possible, j'en sais rien. Je crois pas un seul instant, mais enfin, supposons, ça c'est ce que racontent Chirac et Hollande, ils n'ont même pas lu. Mais ce que je crois, c'est tout simplement que c'est ce qui va se passer. Eh ben, ils vont faire un turnover, comme on dit les gars.
Évidemment, hein, ça ira toujours.
On va avoir un plombier moldovalec qui va arriver, qui va au bout de 8 jours rentrer chez lui, il va à la frontière passer ses outils à un deuxième plombier moldovalec, et puis
Ruténo
subcarpatique, vous voir même. Voilà.
Et alors un autre commentaire sur le même sujet. Par la faute de la directive Bolkestein, les prochains travaux qui seront faits à mon domicile seront effectués par des Polonais, des Lituaniens, qui vont manger le pain de nos Pakistanais et de nos Algériens. N'est-ce pas une mesure raciste?
Ça, c'est un sketch de Fernand Reynaud, ça.
N'est-ce pas une mesure raciste?
Je ne sais pas s'il y a beaucoup de plombiers pakistanais, j'ai l'impression. Il n'y en a pas beaucoup, hein.
Il n'y a rien de nouveau si vous
étudiez... C'est ça, de la tuyauterie au Pakistan.
Si vous étudiez les conventions internationales, la directive en question n'invente rien. Voilà.
Mais non, mais je pense que c'est n'importe quoi. Ça n'invente rien. Quand en France, un type qui travaille en France, il est soumis à la législation française.
Il n'a
jamais été soumis à la législation...
Il voudrait surtout pas, d'ailleurs, parce qu'il vaut mieux avoir les sales patrons français, les gentils patrons moldovalaques.
Exactement. Moi, je trouve qu'il y a quand même un problème, puis on en parlera, on passera à autre chose. Il y a un problème réel. Moi, je m'interroge sur l'intelligence moyenne de l'immigré, parce que depuis leur temps qu'on leur explique à ces gens-là que la France est un pays effroyablement raciste, une gêne raciste, ils continuent à venir. C'est incroyable. Moi, si on me dit n'allez pas au Soudan, je vais pas au Soudan. On tue les chrétiens au Soudan, je vais pas au Soudan.
Ben, on est peut-être moins pire que les autres.
Et alors, pour trouver une élégante transition avec le sujet pour lequel se présente le professeur Hers, je voudrais, professeur, vous lire l'information suivante.
J'écoute.
Un ouvrage de monsieur Adolf Hitler, Mein Kampf, figure depuis plusieurs semaines au palmarès des meilleures ventes des librairies turques. Ça devrait quand même faire
de la réfléchir, quand même.
Un engouement qui s'explique, selon les spécialistes...
Ils savent pas quoi faire pour rentrer dans l'Europe.
La suite est encore plus belle.
Oui, j'imagine.
Hein? Silvio Ovadia, le chef de la communauté juive de Turquie, a expliqué que cet engouement s'explique par son prix bas, aussi bien que par une poussée nationale. C'est-à-dire, alors avant, il valait 12 euros, Mein Kampf. Non, bon, donc, ça n'intéressait pas les Turcs. Mais à 4,5 euros, là, ça devient...
Là, c'est les soldes.
Donc, voilà. Alors, évidemment, il faudrait obliger à le vendre plus cher. Quoi.
Il le ramène en Allemagne.
Oui, je rapporte en Allemagne. On met en idée. S'il est écrit en turc, ça ne doit pas être très... Voilà. Donc, depuis janvier, Mein Kampf... D'abord, ça prouve qu'il lise. Hein. C'est vendu après 50 000 exemplaires et cette semaine il se classe au 4e rang des meilleures ventes.
Oh, c'est incroyable. C'est formidable.
C'est bien pour. Voilà, des mecs qui ont compris ce que c'était que l'Europe.
Ouais, un argument pour entrer dans l'Europe, là. Très bien.
Voilà ce que je voulais dire. Moi, c'est à peu près tout. Pour moi, pour ce qui me concerne.
Mein Kampf en turc.
Oui. Oui, je ne sais pas ce que ça peut donner, mais ça ne va pas être très très rigolo à lire quand même, il faut bien dire. Professeur Haas, bonsoir.
Bonsoir.
Vous avez publié, vous êtes déjà venu le présenter, mais pas dans mon émission, alors donc on fera un doublon, mais ça gêne personne, enfin pas moi en tout cas, un livre qui s'appelle « Chute et mort de Constantinople, 1204-1453 », et qui est consacré, eh bien, comme le titre l'indique, à la chute et à la mort de Constantinople. Alors, la première question que je vais vous poser, c'est une belle édition, il faut dire, mais je vais dévoiler un secret... Parce que quand même, Il faut dire les choses comme elles. Il faut dire toute la vérité. Nos auditeurs méritent la vérité, qui les rendra libres. Je signale que c'est pas un slogan nazi. Hein.
Non.
Bon, non, parce que la vérité.
On peut adhérer. Ouais.
Mais Libération avait écrit que la vérité vous rendra libre. C'était inscrit au fronton d'Auschwitz. Non, c'est pas ça. C'est Saint-Jean qui dit ça. Et jusqu'à présent, plafarmé, Saint-Jean n'était pas membre de la FNSS. On ne sait pas. On ne sait plus.
Précurseur.
On ne sait plus. Non, mais à blague à part, vous vous souvenez de cette fille qui avait tourné un feuilleton pour la télévision qui se passait en 14-18, et elle avait expliqué qu'elle était très fière d'avoir pu témoigner en jouant le rôle dans ce feuilleton, enfin dans ce téléfilm plus exactement. Témoigner d'un esprit de résistance au nazisme en 14-18.
Ils sont pas après.
C'est la chronologie n'existe plus. Non.
Alors, ce qu'il faut dire, c'est que l'édition est très belle et enfin c'est du beau travail d'éditeur. Et il y a une très belle illustration en couverture qui montre l'entrée des Turcs de Mohammed II à Constantinople le 29 mai 1453. Et qu'est-ce qu'on voit effectivement le fameux tableau extrêmement beau. Qui est un tableau de Constant qui est exposé au musée des Augustins à Toulouse. On devrait dire la moitié du tableau parce que il manque la partie d'en bas du tableau.
Oui.
Hein, professeur, vous y êtes pour quelque chose ?
Ah non, du tout, jamais.
Ah bon.
Jamais.
Parce que ce qu'on ne voit pas. Alors vous voyez, vous avez un beau cavalier, donc Mohamed, qui brandit l'étendard couleur épinard avec la lune. Et puis des magnifiques guerriers, le Mohamed chevauche un très très beau
coursier
ou destrier même, voire même un destrier noir. Mais on ne voit pas. Comment dit-on noir ? On ne dit pas noir, je suis sûr.
Non, un destrier de couleur.
Bon, d'accord. Merci. Heureusement que c'est un spécialiste de
l'héraldisme.
Un destrier de couleur. Alors, et on voit pas le bas. Vous voyez qu'on voit pas. Bon. Et vous savez pourquoi ?
Ah oui, qu'est-ce qui se passe ?
Parce qu'il marche sur un morceau de cadavre.
Ben voilà.
Il y a des cadavres.
Voilà. Alors,
on a
trouvé que c'était pas politiquement correct.
N'aurait même pas dû le montrer à cheval, le peintre, puisqu'il a dû se frayer un chemin à travers les cadavres.
Ouais.
Bah, il y en avait tellement qu'il n'est pas entré en réalité. On a déblayé pendant un bon bout de temps.
Mais on voit bien que le cheval renacle quand même. C'est le seul. Il a l'air de. Hein, c'est le seul qui est quelque chose d'humain. Donc, ça s'appelle Chute et mort de Constantinople. Alors, chute, on comprend bien. Mais pourquoi chute et mort ?
Eh bien, je suis heureux que vous me posiez la question parce que, si vous voulez, je ne dis pas que c'est le principal intérêt du livre, mais j'ai voulu cela. Le contrat, on signe toujours un contrat, nous le savons tous, était chute de Constantinople et les deux dates. Et vraiment, en partant, moi-même, je me disais, après tout, il y a eu deux sièges, deux prises de la ville, il y a là des choses qui sont quand même comparables. Et au fur et à mesure, vous me diriez que je commençais à écrire sans savoir grand-chose, mais enfin tout de même, au fur et à mesure que j'écrivais, que je rassemblais surtout, des éléments, je me suis aperçu qu'il n'y avait rien de comparable. Et là, je dois dire, avec l'accord de l'éditeur, on a changé et on a rajouté « et mort ». En 1204, la ville tombe, elle reste la ville. L'empire, les traditions, la religion, la population restent les mêmes. En 1453, c'est la mort non seulement d'une ville qui n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était, mais la mort d'une civilisation complète, n'est-ce pas ? Et lorsqu'on nous dit, il me semble que quelqu'un a dû dire cela, que les Turcs étaient plus ou moins européens à cause de Constantinople...
Bon, on l'a entendu à ce micro. Hein.
Oui, ah oui. Et qu'ils étaient aussi les enfants de Byzance. Non, ils sont les fossoyeurs de Byzance, n'est-ce pas ? Ils ne sont pas les enfants, ils ne sont pas les héritiers du tout. Leur principale obsession était de tout mettre en l'air.
Alors, il faut recommander à Chirac, puisqu'il ne lit pas la directive Bolkestein, de lire votre livre. Il en prendra d'autres.
Non, je ne crois pas.
Non, vous ne croyez pas qu'il le lira ? Non,
ça ne me gêne pas.
Bon, je comprends qu'on s'en passe assez facilement. Est-ce que c'est vraiment un livre... parce que j'ai dit que vous étiez médiéviste, mais quand on commence à parler du Moyen-Âge, qui n'existe pas, c'est vous
qui l'avez démontré
brillamment.
Je ne sais pas si mon collègue ici est d'accord, mais...
J'existe littérairement, mais...
Oui. Il fallait bien trouver des noms.
C'est une notion qui est écrite... par la Renaissance.
Voilà. Mais je pense qu'à l'époque, personne ne disait nous vivons au Moyen Âge.
Ah, non.
Contrairement à l'histoire que je raconte toujours de ce feuilleton télé, pour y revenir, où un type à cheval, enfin des soldats à cheval arrivent devant une ferme perdue dans la Saint-Onge, enfin un endroit complètement désolé. Voit la fermière et lui dit « Où est ton mari, fermière ?» Et elle répond « Il est parti faire la guerre de 100 ans. » Voilà. Je disais donc, quand on évoque...
Les deux événements, n'est-ce pas ?
Voilà, ces deux événements... encadre quand même
une période
historique marquée, même si on...
Ils ne sont pas comparables, mais il y a quand même un lien assez ténu, mais un lien de cause à effet, tout de même. Il est certain que 1204 a amené un effondrement de l'Empire, c'est sûr. Et c'est-à-dire les chrétiens d'Occident, avec le comte de Flandre, qui s'est fait bombarder, si j'ose dire, ça n'a pas été tout seul.
Il faut résumer en deux mots quand même, expliquer ce qui s'est passé en 1204, parce que...
On revient...
Rapidement,
dites-vous, ben merci. Oui, mais enfin, bon, en 1204, une expédition... que l'on persiste à appeler des croisades. D'ailleurs, moi, je n'ai pas fini de lire encore. J'aimerais chercher le moment où l'on a commencé à parler de croisades. Parce qu'à l'époque, il n'en est pas question. Ce sont des expéditions plus ou moins sous l'autorité de l'Église. Or, celle-ci, cette expédition qui, en principe, allait vers la Terre Sainte, le pape ne l'a pas prêchée. Il n'y a pas un Saint Bernard non plus pour la prêcher. Il y a un... Bon, on peut pas dire des choses désagréables, mais un moine un peu, non pas errant, mais un faiseur de miracles qui a commencé, et ça a rassemblé très peu de gens. Très très peu, n'est-ce pas? Donc, si vous voulez, Champagne, Bourgogne, Champagne et Flandre, pas davantage, et ils sont partis, en principe, ils allaient, comme toutes les expéditions précédentes, il y en a eu des quantités, de toutes sortes, ils allaient, non pas conquérir à nouveau, peut-être Jérusalem, qui était perdue, mais secourir Saint-Jean d'Acre. Ils ont conclu un accord avec les Vénitiens pour le transport, pensant qu'ils seraient des milliers, puis ils étaient environ le tiers du compte quand ils sont arrivés, et ils n'ont pas pu payer. Les Vénitiens ne sont pas des hommes à se laisser faire comme cela, n'est-ce pas, sur le plan commercial. Moi, je suis à moitié génois, on me dit toujours que le génois, c'est impossible. Le Vénitien, c'est pas mal, non plus. Et le doge a piqué une crise de nerfs et de pleurs, enfin, tout ce qu'il fallait. Et finalement, ils se sont entendus, ils ont vidé leurs poches. Ils étaient loin du compte, et ils se sont entendus pour dire, ben écoutez, on fera ce que vous voudrez. Et ce que vous voudrez, ça a été de se mettre à leur service pour des conquêtes. Alors, nous sommes indignés qu'ils aient été combattre des chrétiens. Alors, le prétexte était que ces chrétiens-là étaient schismatiques. Bon, ça, on pourrait...
Vous imaginez bien quand même que si... le chauffeur d'autobus vous dit, si vous pouvez pas payer votre billet, je vous emmène au terminus. Il y a une banque, vous allez attaquer la banque et on partagera le butin. Ça peut paraître quand même un petit peu indélicat comme
mais vous savez
même
ça,
au Moyen Âge.
Ce que l'on néglige de dire, parce que nous sommes toujours obligés dans l'enseignement de vraiment trop simplifier, c'est qu'une part considérable n'ont pas marché. Ils ont fichu le camp. Quand ils étaient à Venise, qu'on leur a dit ça, ils ont dit non, moi je vais en Terre Sainte. Ils ont déserté, si l'on veut, à Venise, en Dalmatie, à Corfou, n'est-ce pas, à chaque arrêt. Donc par conséquent, c'était aussi l'une des raisons pour laquelle ils étaient de moins en moins nombreux, l'on peut dire. Et combattre des schismatiques, c'est pas joli joli. Le pape ne poussait pas, au contraire. Mais leur première conquête, c'était une ville de Dalmatie que les Vénitiens voulaient récupérer sur le roi de Hongrie, qui s'appelle Zara à l'époque, Zadar maintenant, et qui n'était pas du tout schismatique, ceux-là, alors, qui était tout à fait romain. Et ils les ont pris, ça a été certainement beaucoup plus sanglant qu'à Constantinople même. Parce que une armée et une flotte qui ne sont pas très nombreuses, devant une bourgade, comme Zara, ça peut faire beaucoup de dégâts, mais devant 1 500 000 ou 2 millions d'habitants, ça ne va pas très loin quand on arrive.
Oui, c'est ça qui était quoi, quelques centaines.
On peut pas, je ne peux pas vous dire. Mais moi, je dirais qu'il n'était pas 20 000.
Oui,
non, 10 000. Non, oui, 10 000 c'est, peut-être.
C'est une histoire enfin. De Mao Tse-tung qui, en général, dit Israël attaque la Chine et qui répond oui, ils descendent dans quel hôtel.
Oui, mais voyez-vous, c'est toujours la magie et l'erreur des mots. Nous parlons. Moi, j'ai écrit, j'ai beaucoup enseigné ça aussi. Le siège de Constantinople. Ils n'ont jamais fait le siège de Constantinople. Ils se sont collés devant une porte, et ils se sont barricadés, et puis ils se sont dit, pourvu qu'ils ne sortent pas trop nombreux, effectivement, ils ne sortaient pas nombreux, à chaque fois, ils remportaient une victoire. Et ils ne l'ont, alors, on va finir là-dessus, ils ne l'ont emporté que parce qu'ils traînaient dans leur bagage un petit jeune homme qui disait avoir été, ce qui était le cas d'ailleurs, avoir été dépossédé de son trône. Donc, c'est une affaire de succession, et quand à l'intérieur, les partisans étaient d'accord, ils sont entrés.
Bon, je vais vous demander la permission de vous interrompre pendant quelques 2-3 minutes, parce que j'ai au téléphone votre collègue Bruno Gollnisch. Allô ?
Oui ?
Oui, Bruno Gollnisch, bonsoir.
Bonsoir Serge.
Comment allez-vous ?
Je vais bien, vous-même ?
Ça va très bien, je vous remercie. Alors, je voulais vous demander de faire un point rapide de votre situation, parce qu'elle évolue pratiquement tous les jours. On a entendu il y a 2-3 jours que vous aviez été frappé par une sanction d'exclusion de vos droits et titres, ou au moins de votre enseignement universitaire à Lyon.
Oui, de mon enseignement, oui.
Pour de votre enseignement, oui. Voilà. Et puis, hier, il y a eu du nouveau. Est-ce que vous pouvez nous résumer ce qui s'est passé ?
Bien, écoutez, j'ai fait en effet l'objet d'une sanction que je crois parfaitement injuste et de surcroît illégale à plus d'une raison, car je dénie toute compétence aux instances disciplinaires pour juger des propos d'un parlementaire tenu dans sa permanence électorale. Je crois d'ailleurs que ça crée un précédent très grave pour les libertés publiques, d'autant plus que à aucun moment cette décision ne cite la teneur de mes propos en violation des règles formelles exigées par la jurisprudence et d'ailleurs par le bon sens. J'ai droit évidemment, s'agissant d'une matière qui touche à la liberté d'expression, que l'on me dise « il vous est reproché d'avoir déclaré, deux points, ouvrez les guillemets, ceci ou cela, point, fermez les guillemets ». Or, on dit que mes propos ont été parfois équivoques, que mes propos ont été parfois provocateurs, que mes propos ont suscité des réactions, que je ne pouvais ignorer que mes propos allaient être traités par la presse de telle ou telle façon. Si, j'ignorais encore les ressources incroyables de mensonges, du mensonge, de la mauvaise foi, et au risque d'être considéré comme un irréductible naïf. Mais je ne saurais évidemment être condamné sur les réactions qu'ont suscité la déformation de mes propos. Il n'y a pas de responsabilité de ce type en droit français. Je ne saurais être condamné que sur ce que j'ai fait, et hélas, puisque nous ne sommes plus dans un régime de liberté d'expression, sur ce que j'ai dit.
Alors, il faut dire, si vous permettez une seconde, que les considérants de votre condamnation par une instance universitaire, voilà ce qu'on lit. Considérant numéro 1, les propos tenus. Considérant 2, un certain nombre de propos, par leur contenu parfois équivoque, leur formulation parfois provocatrice, leur contexte parfois ambigu, ces propos étaient de nature, etc. Ces propos ne sont pas conformes à blablabla. Ces propos n'ont pas été tenus, alors là c'est encore mieux. Ces propos ont été tenus, bon. Ces propos ont suscité certains propos relatifs à, et bon, donc on parle sans arrêt de propos, mais pas une seule fois on ne dit ce que vous êtes censé avoir dit.
Exactement, et pour cause d'ailleurs, parce que si on était obligé de mentionner les propos en question, on s'apercevrait qu'il n'y a là aucune faute, ni pénale, ni disciplinaire.
Alors en fait, ce qui apparaît à travers l'article que nous publions, d'ailleurs vous avez fait un long article très intéressant, je le signale, sur votre affaire et que nous publions dans le Libre Journal, ce qui apparaît, c'est que il s'agit d'une affaire de vindicte personnelle, en somme, de la part d'un administratif, parce qu'on voit bien que le recteur Morvan qui vous attaque le fait à titre personnel. Il a d'ailleurs été réprimandé très sévèrement par le Conseil d'État.
Oui, alors je crois que c'est plus qu'une vindicte personnelle. Je pense que c'est un acte politique. Les deux personnes, les deux personnages clés qui me poursuivent, l'un, il est vrai, avec plus de modération que l'autre, agissent sur ordre du gouvernement, sont les représentants du gouvernement. D'ailleurs, c'est sur le plan judiciaire, le procureur de la République qui agit explicitement sur l'ordre du procureur général, lequel, dans un communiqué, a reconnu qu'il agissait sur l'ordre exprès de M. Perben, qui sera mon adversaire aux prochaines municipales de Lyon. Alors que l'enquête m'avait blanchi, ainsi que l'avait reconnu d'ailleurs la radio RTL, le journal Libération, qui ne passe pas pour mes amis politiques. L'autre personnage étant le recteur d'académie qui représente le gouvernement, le recteur Morvan, qui a été dans toute cette affaire le moteur des poursuites, menaçant de saisir lui-même les juridictions disciplinaires si le président de l'université ne le faisait pas, imputant à l'université une responsabilité collective si je n'étais pas révoqué, excusez du peu, déclarant en plus d'une circonstance, et notamment dans les circonstances les plus solennelles, que j'avais osé, pour ne pas répondre, me retrancher derrière le fait que je n'étais que professeur de japonais, et ajoutant, osant ajouter, il a déclaré ce dont je ne qu'il n'était pas spécialiste. Donc, ajoute le recteur Morvan, et ça c'est une invention de son cru, donc ce dont je ne suis pas spécialiste n'a peut-être jamais existé.
Oh.
Ça c'est absolument stupéfiant, parce que je ne suis pas non plus spécialiste du cancer, par exemple, je ne porterai pas un diagnostic sur une personne que l'on me dit atteinte d'un cancer, ça ne veut pas dire que pour autant je dise que le cancer n'a pas existé. C'était donc le procès d'intention à l'état chimiquement pur, et accompagné d'ailleurs de propos absolument hallucinants. Par exemple, le recteur Morvan, pour me déshumaniser, avait décidé de ne pas citer mon nom, et disait de moi une personne dont je ne citerai pas le nom par mesure d'hygiène. N'est-ce pas? Alors, j'ai donc attaqué le recteur Morvan devant la juridiction pénale en injure et diffamation, mais je l'avais actionné également en atteinte à la présomption d'innocence. Et le Conseil d'État, dans une décision qui est intervenue dans un délai remarquablement bref, par une ordonnance de référé dont s'est saisi le président de la section du contentieux lui-même, qui est donc un des plus hauts
magistrats
de France, M. Genevoix, qui ne passe pas d'ailleurs pour être un homme de droite, le président de la section du contentieux, mais qui est assurément un juriste remarquable, nous avons tous été extrêmement impressionnés par l'audience qu'il avait conduite, qui manifestait qu'en 24 heures, il avait acquis une connaissance exceptionnelle d'un dossier qui ne comportait pas moins de 107 productions. Le président donc de la section du contentieux du Conseil d'État, c'est-à-dire la plus haute juridiction administrative de notre pays, a rendu une ordonnance de référé extrêmement sévère pour le recteur Morvan, dont il est dit, je cite en toutes lettres, qu'il a, par son comportement, porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. C'est la première fois que le Conseil d'État statue sur cette question de la présomption d'innocence, et je pense que cette décision, au-delà de mon cas personnel, restera dans les annales de la jurisprudence administrative française.
Merci Bruno Gollnisch. Je répète que je vais vous libérer parce que vous êtes à une exposition, je crois. Hein.
Je vais au vernissage d'un peintre, François Bavzard, qui est un peintre jeune extrêmement talentueux, et qui procède au vernissage d'une exposition de ses œuvres, boulevard Raspail, où je me rendrai dans quelques instants.
Donc on va vous laisser aller admirer des belles choses et donc cesser de parler des méchantes, mais je voudrais quand même citer une des plus belles phrases du recteur Morvan, dont vous faites état dans votre compte-rendu de votre affaire. Il a dit à Lyon Capitale, le recteur Morvan, la virginité, ça se conquiert au fil des actes. Ce qui, à mon avis, le promet à une célébrité immortelle.
Il s'agissait de la virginité de l'université, n'est-ce pas? L'idée étant que...
J'espère qu'il parlait pas de sa bonne.
L'université est coupable et qu'elle doit, pas seulement m'ayant sacrifié, lâchement sur l'autel du politiquement correct, mais qu'elle doit tous les jours prouver par des repentances continuelles,
oui.
Qu'elle doit tous les jours reconquérir cette virginité, comme certaines jeunes femmes s'efforcent de la reconquérir avant le mariage en pratiquant certaines opérations chirurgicales.
Merci professeur Gollnisch. À bientôt.
À bientôt, Serge, et merci de votre invitation.
Voilà. Voilà. En plus, ce sont des opérations inutiles en ce qui concerne l'université, puisque M. Raffarin à Jérusalem vient de déclarer que la France avait acquis, si j'ose dire, une dette imprescriptible. Oui, alors, oui. Donc si c'est imprescriptible, c'est pas la peine d'essayer de la prescrire. C'est du temps perdu et à blanchir un... je sais plus quoi, en us et les six, disait ma mère à une époque où on pouvait parler librement. Quoi ?
Rien, rien.
Bon, je l'ai pas dit, vous avez vu ? J'aurais pu le dire.
Non, non. Très bien.
Alors revenons, professeur, à votre livre. Quand on le lit, on a quand même une impression, surtout dans la deuxième partie.
Oui.
On a deux impressions. D'abord, on a l'impression que vous parlez de l'actualité. Et l'autre impression qu'on a, c'est vraiment que il y a une espèce de malédiction, ce qui pèse sur l'intelligence des peuples. Parce que
ce sont de grands mots, mais j'adhère, oui, absolument.
Parce que on peut pas dire que qu'on va être pris par surprise, hein,
non.
Si j'ose dire, le jour où les Turcs vont entrer dans l'Europe, puisque si l'Europe se fait, ça sera avec les Turcs, je crois que c'est... Ils ont décidé de le faire, toute la bande de voyous a décidé de le faire, donc ça se produira, mais... C'est vraiment... Est-ce que c'est de l'aveuglement? Est-ce que c'est de la malfaisance pure? On se pose des questions, parce que...
Eh ben, je vais vous dire, moi, pour moi, les Français... En France, les Français sont relativement excusables. C'est de l'intoxication. Si vous voulez, on leur a toujours fait croire autre chose. J'ai écrit un autre livre, vous en souvenez, sur les barbaresques, et j'ai suivi, si je peux dire, non pas sur le plan littéraire, j'en étais pas capable, mais en prenant les titres même, l'extraordinaire développement de la turcophilie en France. Ce n'est pas croyable. Et nous sommes à l'origine de tout cela.
Est-ce que c'est pas la recherche effrénée du plaisir?
Peut-être, oui, ça les amusait beaucoup, tous ces rails, ces harems et tout. Mais enfin, là encore, je vais certainement faire des plaisirs, pour reprendre le mot à quelques-uns de nos auditeurs. Ça a commencé quand même avec François Ier. Il ne faut pas... Bon, les géopolitiques disent que c'était inévitable. Non, moi je ne le pense pas. Et j'insiste beaucoup, la France n'était pas encerclée. Ce n'est pas parce que vous avez des gens autour de vous, et même si c'est le même, parce qu'en somme, Charles Quint n'a jamais rien fait contre le royaume de France, alors que par deux reprises, François Ier a envoyé deux grosses armées avec des généraux de distinction au fond de la Castille pour soutenir des rebelles. Mmh. Donc, par conséquent, ils n'étaient pas du tout encerclés. Mais les circonstances ont fait, ou l'état d'esprit est tant, que les Turcs étaient très bien, n'est-ce pas ? Très, très bien. Et pour ne pas résumer tout, il y a quand même une chose importante, c'est que les Turcs, ne voulant pas rentrer chez eux, ben, ils ont hiverné tout un hiver à Toulon. Vous imaginez.
Oui, d'ailleurs, vous savez que lorsque j'ai été très, très, très brièvement, je veux dire, en poste à Toulon, vraiment très brièvement, j'avais eu l'idée de renouveler une fête toulonnaise qui s'appelait la fête de Barberousse.
Ah, et bah, dont vous m'intéressez, là, oui.
Dont la coutume était donc de célébrer la présence de Barberousse
ou le départ
à Toulon, et on terminait la chose au 19e siècle quand on faisait ça, en faisant une espèce de bateau sur lequel on mettait un mannequin de paille qui représentait Barberousse, on foutait le feu au bateau et on l'envoyait vers le large. Quand j'ai émis l'idée de réveiller cette tradition, je peux vous dire que même le conseil municipal Front National de Toulon a trouvé que c'était d'un goût assez approximatif. Donc pour des raisons que j'ignore, ça n'a pas...
Ça aurait été intéressant.
Ça aurait été pourtant... C'était historique.
Oui.
Voilà. Mais enfin, ça fait
si
partie
vous voulez,
des interdits.
Là, c'est le point le plus fort, c'est le pire. Mais il a fallu ensuite, l'important, c'est qu'il fallu justifier cela. Donc il y a eu toute une série d'écrits avec des gens tout à fait remarquables. Alors les Dubellet qui étaient des propagandistes. Lorsque j'étais gamin au lycée et qu'on apprenait, n'est-ce pas, France des Arts et puis le Petit Liré et tout, mais le Petit Liré c'est anti-romain, volontairement.
Oui,
volontairement, parce que le pape n'était pas tout à fait pour les Turcs, n'est-ce pas ? Pas assez, sans doute, pas vraiment du tout. Mais ça continuait. Alors nous n'étions pas à la délivrance ou au secours de Malte d'abord, nous n'étions pas à Lépante, nous n'étions pas au siège de Vienne, donc par conséquent nous avons été formés comme cela. Et je crois que actuellement, peut-être on y pense un peu, mais il y a des moments tout récents, je vais aller très vite là, volontairement, où on n'y pensait pas du tout. la Bosnie-Herzégovine, n'est-ce pas, on était avec les Turcs, il n'y a aucun doute.
Mais d'ailleurs, il ne faut pas pour autant croire que Chirac serait la réincarnation de François Ier, il y a quand même...
Ça ne me gênerait pas, parce que je n'ai pas plus de sympathie tellement pour
François Ier. Enfin, moi je préférerais quand même François Ier revienne, mais là, on ne va pas discuter, c'est des goûts personnels.
Eh bien, vous ne savez pas tout.
Alors, certainement. Mais... il y a un autre aspect quand même qui est frappant dans cette histoire, c'est l'ignorance totale de l'histoire par nos contemporains, mais de l'histoire la plus élémentaire. J'en remarquais tout à l'heure en micro que quand les Romains conquièrent Athènes,
bien sûr.
Athènes fait la conquête intellectuelle des Romains et enrichit en quelque sorte la romanité, Rome de l'apport de l'apport hellène. Quand les barbares
entre guillemets
font la conquête de Rome, ils reçoivent le christianisme en échange, c'est quand même pas rien, et ça va donner la civilisation la plus flamboyante qui soit. Mais quand les Turcs envahissent Constantinople, le titre de votre livre le dit, c'est la mort de Constantinople. Et quand ils vont conquérir ce qui était les débris de l'Empire romain en Afrique du Nord, ils transforment ça en un désert total. C'est-à-dire que il reste rien derrière. Et quand on lit l'histoire de la conquête de l'Algérie et qu'on voit comment se comportaient les délégués de Ottomans, enfin les
chevaliers, absolument,
qui étaient au pouvoir en Algérie, c'est absolument terrifiant. Enfin, c'est d'une sauvagerie monstrueuse.
C'est une chose.
C'est des centaines de têtes coupées tous les jours. Enfin, c'est ahurissant.
C'est une chose que l'on oublie, que l'on veut oublier, c'est que il s'agit d'un État conquérant. Indéfiniment conquérant. Constantinople, ça nous intéresse, c'est très grave. Mais enfin, un demi-siècle plus tard, c'est tout de même Damas et Le Caire. Ils ne les ont pas ménagés non plus, n'est-ce pas? Et à même époque exactement, n'est-ce pas? Le Caire, c'est 1517, Alger, 1516.
Oui.
Donc, il y a jusque-là. Alors, de penser que, oui, ils sont allés à Constantinople parce que cet empire était malade, on a mis la main dessus, pourquoi pas? Mais non, ils vont vers la Méditerranée. Et à peine avait-il pris, le jour même où il entre à Constantinople, il crie à Rome. Il n'y a jamais eu d'autre idée, n'est-ce pas? Et une chose que je n'ai pas mis dans le livre, mais que naturellement on lit depuis toujours, c'est que l'habitude des Ottomans, ne disons pas les Turcs à l'époque, c'est déjà autre chose, parce que les premiers à payer ont été les autres Turcs, n'est-ce pas? Les Seljoukides. Mais leur habitude était, dès qu'une ville conquise, j'en fais ma capitale. Ce qui veut dire, j'irai plus loin.
Comprenez. Est-ce qu'il y a un lien, est-ce que vous voyez, vous, en tant qu'historien, un lien entre cette façon de faire les conquêtes, cette façon de faire la guerre, et la dimension islamique de l'Empire ottoman, ou est-ce que vous croyez que c'est plutôt un comportement d'ordre...
L'islam est un prétexte et il est adopté et mis en avant. Voilà.
C'est ça. Oui, professeur Hidou.
Je pense qu'on pourrait comparer l'Empire turc est un empire militaire. C'est une puissance militaire qui s'établit, qui ne construit rien que la durée, que la pérennité de son pouvoir par des moyens de terreur. Et je ne vois qu'un exemple dans l'Antiquité qu'on pourrait rapprocher de l'exemple turc, c'est la Syrie, la domination de la Syrie.
Les Assyriens.
Les Assyriens, voilà. Je crois qu'il y a une certaine parenté dans ces deux empires.
Quand vous avez décidé, professeur Arras, de faire ce livre, quel était votre motif principal?
Eh bien, trouver un titre, pour commencer. C'est toujours ça. Pour une fois, il n'y avait pas de célébration. Je ne pouvais pas imaginer. Bon, non, réellement, oui, j'y pensais un peu, parce que je me disais, 1453-2003, mais ça a tellement traîné, ils ont beaucoup hésité à prendre le livre, beaucoup. Puis après, je me suis dit, 1204, c'est 2004, pourquoi pas? Donc ils ont fini par céder, puis on s'est dit tant pis pour les célébrations, ça ira comme ça. Puis d'un seul coup, on s'est aperçu. Non, mon sujet, mon idée personnel, si vous voulez, non pas pour la vente, mais pour l'intérêt de l'écriture, moi, et de la recherche, était, je viens d'y faire allusion, je ne veux pas m'étendre là, parce que ça m'a trop marqué. Cette affaire, n'est-ce pas, des Balkans actuels, Kosovo, Bosnie-Herzégovine, et je me suis dit, là, il y a une acceptation de la part du public, même chez les bien-pensants, et il y a une sorte d'antagonisme. Voyons un peu les origines. Et si dans ce livre il y a des choses un peu nouvelles, c'est surtout, excusez-moi, sur la première partie, où j'essayais d'expliquer pourquoi ils sont allés là-bas.
Alors
tout à l'heure, j'ai dit c'est une affaire d'argent, ils ne pouvaient pas faire autrement. Mais enfin, il y en a quand même la moitié qui sont allés, et il y avait à l'origine, sans doute, et ça nous demanderait beaucoup de temps d'en parler, c'est complexe, très complexe, c'est même, excusez-moi, monsieur, c'est même littéraire, n'est-ce pas, les souvenirs de la guerre de Troie. C'est sûr,
oui.
Ça compte énormément. Et je crois que là, pour moi, c'est ce qui m'intéressait pour le faire.
Quand vous parlez de la guerre de Troie, des souvenirs de la guerre de Troie, l'espèce de bouillonnement de créativité intellectuelle, de poésie, d'histoire, puisqu'à l'époque, la poésie, l'histoire, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut considérer que, de près ou de loin, je pose aussi la question à Charles Ridoux, ça ensemence la civilisation ottomane autant que la civilisation hellénistique ou européenne?
Je ne crois pas, moi, personnellement. Non, je ne pense pas.
Ça ne fait pas partie de leur...
Donc, je ne dis pas que ce sont des incultes, sûrement pas, bien sûr.
Ils peuvent avoir une culture différente.
La guerre de Troie, c'est une affaire occidentale, la guerre de Troie, uniquement. N'est-ce pas? C'est les Grecs qui ont mis la main sur cette ville et qui allait être, soi-disant, l'ancêtre de Rome. N'est-ce pas? C'est ça le problème.
Et au Moyen-Âge, ce sont les monarchies, les Plantagenets ou les Capétiens qui se sont donné des origines troyennes pour asseoir la légitimité et la gloire de leur lignée. Ouais.
Et vous savez, ça pénètre très profond, ça. On croit toujours que cette culture est une affaire des élites. Non, non. Même le peuple, au fond, il regarde les lucarnes là, et puis on voit bien, mais il y avait tous les jeux, toutes les fêtes au carrefour, tous les mystères, toutes ces choses-là. Moi, je suis très frappé de ce que peut être la pénétration, je dirais, populaire d'un bagage littéraire à l'époque, qui est certainement important. Lorsque je prenais des exemples de représentations, là, il y a les neuf preux et les neuf preuses. Oui. Je me disais, allons-y, je regarde les neuf preux. Il m'arrive de trébucher. Quant aux neuf preuses, alors je n'y comprends plus rien. Alors on assénait ça à des bonnes gens, là. Oui, c'est quand même important.
Mais c'est très sensible dans certains livres de Durell, où il raconte notamment, quand il est à Corfou, il raconte qu'il va assister aux séances du théâtre populaire, le plus populaire, alors c'est du guignol, enfin, sans des marionnettes. Et on s'aperçoit, quand il raconte ça, que ces marionnettes sont en train de raconter des épisodes avec des personnages qui sont des personnages, complètement installés, une fois pour toutes, sont des archétypes. Eh bien, il raconte des histoires qui sont des histoires de la Grèce antique, et qui sont tirées pratiquement de l'Iliade.
Oui.
Ce dont les spectateurs, ça se passe en 1930.
Oui, absolument.
1930, 1940, ce dont les spectateurs sont pas du tout conscients. Mais en réalité, donc, ça fait des dizaines de siècles que le peuple est nourri de cette culture.
Alors j'ai essayé de démêler, c'est ça, alors il y a cela, il y a la question de religion, le schisme, je l'ai minimisé, je pense, on dit toujours le schisme, c'est une affaire complexe, et finalement Rome a bien effacé après, n'est-ce pas? Il ne faut pas oublier quand même, je le disais dimanche soir, là, ici même, allons très vite, il ne faut pas oublier que le schisme a été prononcé par un cardinal légat à Constantinople lors d'une vacance pontificale.
Enfin, oui.
Il a pris ça sur lui.
Ah oui, tiens, c'est intéressant. Ça.
Et ça
doit intéresser notre ami Ridoux, qui est schismatique.
Et par ailleurs, je voudrais signaler un prolongement malheureux sur le plan politique de ce conflit Orient-Occident, par le fait de la politique britannique à la fin du 19e siècle, qui a empêché les Russes d'entrer à Constantinople, alors qu'ils étaient dans les faubourgs, et de libérer Constantinople.
C'est vrai.
Oui, oui. Ça, c'est le plus grave, d'ailleurs, oui.
Voilà, ça s'appelle Chute et mort de Constantinople, c'est paru aux éditions Perrin. Et c'est de Jacques Herz. Je suis très content de recevoir Jacques Herz et surtout de pouvoir lire un livre de lui, parce que j'avais été extrêmement frappé par celui qui me reste le plus en mémoire. On en parlait tout à l'heure, c'est Le Moyen-Âge n'existe pas, qui me paraît d'une audace et d'une intelligence exceptionnelle. Alors je vais me faire encore
c'est
des amis
dire, c'est beaucoup
dans le milieu universitaire. Merci beaucoup.
Non, c'est moi qui vous remercie.
Oui, j'ai quelques...
Des questions
C'est pas une question, là, il y a un commentaire. Les gentilshommes français étaient alépantes individuellement ou dans l'ordre de Malte.
Oui, ils sont allés individuellement, alors allons jusqu'au bout de l'affaire. Leur majorité était huguenots, mais non pas catholiques, et leurs biens ont été confisqués par le roi de France, pour y avoir été.
Pensez-vous...
Vous allez me le rendre vraiment très sympathique.
Ah non, non, là, ce n'est plus François Ier. Non.
C'est des bêtises. Pensez-vous que ce soit un hasard si la tentative d'assassinat du pape a été faite par un Turc?
Ah non, ça, je ne sais rien du tout sur ce point.
Vous n'étiez pas au KGB quand ça
s'est
passé?
Non.
Alors, on revient sur... Le sujet qui a beaucoup excité nos auditeurs la semaine dernière, Philippe de Villiers a remarqué que la date du référendum était le 29 mai, précisément le jour de la prise de Constantinople. Chirac l'a-t-il fait exprès?
Ça, on commence à voir.
Comment sonder l'insondable?
Enfin, ça tombe bien, en tout cas.
Mais alors, il y avait cette dispute entre le 29
mai... Non, on voit bien, effectivement, j'avais pas le livre sous les yeux, mais c'est un lapsus dans la présentation du texte, mais le dessous qui est immédiatement corrigé par la description de l'image de couverture qui dit bien « Entrée des Turcs de Mohamed II à Constantinople le 29 mai ».
C'était deux malheureuses coquilles, puisque ça a été répété.
Bien.
Connaissez-vous le livre de Max Gallo, Par ce signe tu vaincras? Qu'en pensez-vous? Est-ce sérieux?
Non, je ne lis que quelques livres, évidemment ceux qui me paraissent a priori les plus utiles.
Non, mais je crois que de voir Max Gallo signer un livre qui s'appelle Par ce signe tu vaincras, c'est quand même plutôt réjouissant, hein? Tant qu'à faire, il vient à récipient. Ce brave homme.
C'est un Gallo de trop.
Une petite note artistique. Dans les années 50...
C'est pas le juge. Hein.
Dans les années 50, Dario Moreno, d'origine turque, chantait « Istanbul, ce n'est plus l'Europe ».
Istanbul à Constantinople. Mais d'origine turque, réellement
ça, ouais. Je ne sais pas.
T'es d'origine turque, Dario Moreno?
C'est dommage.
L'auditeur est responsable de son texte, pas moi.
Ah bon.
Alors, il y a une signature.
Bah, surtout pas, d'ailleurs. Ça fait même partie du jeu.
Oui.
Signature.
Oui.
Samedi prochain, 19 mars, de 15h à 18h30, Jacques Herz dédicacera Chute et mort de Constantinople.
Oui, avec Vladimir Volkov aussi.
Vladimir Volkov, qui dédicacera Les Orphelins du Tsar. Florence de Baudus, qui dédicacera Le Jardin de l'Enfance. De l'infante, pardon, et Pierre Hillard, La décomposition des nations européennes.
Alors, je vais en profiter pour dire un mot du livre de Pierre Hillard, qui est formidable. Vous l'avez lu, professeur?
Non,
écoutez, lisez-le, c'est remarquable. Et alors, ce qui est très intéressant, ce sont les cartes. Il a obtenu de son éditeur qu'un appareil de cartes en couleur soit intégré dans le livre. Et si j'ose dire, on pourrait presque faire l'économie de la lecture, tant les cartes sont parlantes et formidablement édifiantes. Alors justement, sur la question dont on vient de parler, puisque par exemple, on voit, il y a une carte qui s'appelle « Carte des revendications sécessionnistes dans l'Union européenne à 15 ». Et on voit bien que tout ça est fabriqué entièrement à la main. Par exemple, il y aurait une Occitanie en France, il y aurait une Bretagne en France, mais en Allemagne, il n'y a pas du tout de revendications sécessionnistes, apparemment. En Espagne non plus.
C'est curieux, là, oui.
Et en Turquie, pas du tout, là. Pas du tout. La Turquie est un bloc. Si la caméra numéro 1 voulait bien nous montrer cet ouvrage. Alors, je le recommande, il est paru chez François-Xavier de Guibert, et c'est vraiment un livre excellent. Et je voudrais un dernier mot à l'usage de ceux qui vont dire que Pierre Hillard est anti-allemand. C'est ridicule. Pierre Hélard n'est pas du tout entièrement, son texte n'est pas du tout entièrement. C'est simplement qu'il ne peut pas dire que certaines idées qui viennent d'Allemagne viennent de Cochinchine. Elles viennent d'Allemagne, voilà, c'est tout.
Oui, elles viennent.
Alors, c'est dommage pour eux, mais c'est comme ça. Bien, je me tourne maintenant vers un autre éminent universitaire, qui est Charles Ridoux. Alors là, on va complètement changer de sujet, évidemment, mais quoique, on ne sait pas trop si on change de sujet. On va changer en tout cas d'univers. Car Charles Ridoux a écrit un livre qui s'appelle Le Chant du Monde, qui n'a rien à voir avec notre camarade Mahler.
Non, non.
Mais il s'agit d'un...
Ce type s'est imposé à moi. Vous cherchiez un titre, moi j'ai trouvé le titre, mais il m'est donc tombé dessus.
Alors il s'agit d'un livre...
Sur Tolkien.
Sur Tolkien. C'est un livre de critique, mais de critique, entendons-nous, pas au sens de critique, on va critiquer une œuvre.
Au sens d'amoureuse présentation.
Voilà, c'est ça, voilà. C'est plutôt un livre de commentaires, de regards sur Tolkien, son œuvre, etc. Tolkien, c'est l'auteur du Seigneur des Anneaux et autres ouvrages, et c'est un personnage qui, à mon avis, appartient à la très très haute littérature européenne, et qui est probablement un des écrivains européens les plus importants du XXe siècle.
Les Anglais, les Britanniques en tout cas, ont voté en 1997 et attribué à Tolkien le titre de l'auteur le plus important du XXe siècle.
Un des plus importants, parce que c'est un véritable créateur. En France, on est à peu près... On a beaucoup de mal à intégrer une œuvre comme celle de Tolkien, parce que c'est...
L'esprit est différent.
Nous, on a cet esprit français,
radiocinateur,
mais en même temps rationaliste, en tout cas cartésien, qui fait semblant d'être cartésien, en tout cas. Vous savez, c'est le genre de, les gens qui vous disent « Comment pouvez-vous croire à la résurrection ?» et 10 minutes après, ils vous expliquent qu'ils sont sagittaires ascendants, poil à gratter. Bon, alors, donc, ça, c'est typiquement français. Et alors, l'intérêt de ce livre, c'est que Charles Ridoux est un médiéviste, un universitaire, musicien. Vous êtes également un pianiste. Je dis ça parce que ça compte beaucoup dans le... Pour un lecteur, c'est important d'avoir le sens de la musicalité, le sens du rythme, le sens du phrasé. Et les traductions de Tolkien sont remarquables. Je le dis pour les lecteurs qui voudraient lire en français. Et puis également, vous avez une caractéristique, je l'ai évoqué tout à l'heure, je dis vous étiez schismatique.
C'est-à-dire orthodoxe.
Orthodoxe.
Ah, bon. Oui.
Un fidèle de l'Église orthodoxe. Et je le dis pas du tout par souci de faire des révélations personnelles, mais parce que ça compte beaucoup dans le regard qu'on peut porter. C'est l'attitude intellectuelle d'un orthodoxe n'est pas celle d'un catholique. Le regard est différent. Il y a le contact avec le surnaturel est plus charnel, il est plus facile, peut-être, ou plus curieux, en tout cas.
Mais Tolkien, lui, était catholique.
Et Tolkien était un catholique traditionnaliste, très traditionnaliste. Alors voilà. Donc. Je vous ai demandé de venir parce qu'il y a eu beaucoup de bouquins sur Tolkien, dont certains tout à fait remarquables, mais qui n'ont rien à voir avec le vôtre. Je pense au bouquin de Bonal, par exemple, qui est un regard personnel, comme ça, une espèce d'œuvre jaculatoire.
Alors, je me permettrai de dire que, à mon sens, Nicolas Bonal, que j'apprécie par ailleurs, a manqué en quelque sorte le but, la flèche. Où voulait-il la lancer là? Mais j'ai l'impression quand même qu'il s'est un peu servi de Tolkien pour faire du Bonal, pour expliquer sa mythologie.
Oui, c'est ce que je veux dire.
Alors que j'ai fait exactement l'inverse, voilà. C'est-à-dire que j'ai essayé de me mettre au service du légendaire de Tolkien pour l'exposer dans toute sa grandeur, dans sa splendeur, dans son immensité.
Alors, justement, puisque vous parlez du légendaire de Tolkien, je voudrais que vous expliquiez à nos lecteurs, à nos auditeurs, qui ne sont pas forcément informés de ça, ce que c'est que Tolkien et ce que c'est que son œuvre, en peu de mots, bien sûr.
Alors, il y a une difficulté, qui est due aux circonstances de publication de Tolkien, de ses œuvres même, puisque La première publication qui l'a fait connaître en langue anglaise, c'était Le Hobbit, paru en 1937.
Dans un trou vivait un Hobbit, pas voilà. Un de ces trous sales et humides.
Et ensuite, c'est qui est donc une œuvre qu'on pourrait dire de littérature pour enfants, bien qu'elle soit tout à fait digne d'être lue par des adultes. Ensuite, Tolkien a publié en 1954 et 1955 Le Seigneur des Anneaux, qui a obtenu un succès considérable, immense, en une dizaine d'années plus tard, dans les, au milieu des années 60 aux États-Unis. Un succès qui d'ailleurs n'a pas tourné la tête à Tolkien, qui est resté un homme très simple, et qui un professeur d'Oxford, un
médiéviste.
En France, en outre, la connaissance de Tolkien en France a connu un très grand retard. Le Hobbit n'a été traduit, ou Tolkien n'est connu en France que depuis le milieu des années 70.
C'est ça.
Et donc, il y a, alors que son œuvre, il la porte en lui, et il porte en lui non pas seulement l'œuvre qui a été publiée dans ces années, Le Hobbit et Le Seigneur des Anneaux, mais ce que j'appelle le légendaire, il la porte en lui depuis au moins 1916 et jusqu'à sa mort, depuis l'âge de 25 ans jusqu'à plus de 80 ans. Et cette œuvre, il l'a portée en lui et il l'a méditée, écrite, rédigée, il y a plusieurs rédactions successives, tout au long de sa vie. Et c'est ça que j'appelle le légendaire. Alors qui commence à être connu, qui n'a été traduit, même publié en anglais, non pas du vivant de Tolkien, mais après sa mort, sous deux formes, et par son fils, par un de ses fils, il y a quatre enfants, trois garçons et une fille, et son fils Christopher Tolkien, qui maintenant a 84 ans, je crois, ou 82 ou 84 ans, a été le premier auditeur de l'œuvre de son père durant son enfance. Il a aidé son père à constituer la cartographie, qui est très importante dans l'œuvre de Tolkien, de l'univers qu'il créait. Et après la mort de son père, Christopher Tolkien a publié une sorte de résumé, si l'on veut, le Silmarillion, qui est le résumé de la mythologie de Tolkien. Mais il a publié ensuite, entre 1983 et 1997, 12 volumes en anglais qui ne sont pas encore traduits.
De commentaires,
c'est une œuvre
renforcement.
Étrange, l'histoire de la Terre du Milieu,
voilà.
Qui contient toutes sortes de textes, des récits, des textes philosophiques, des textes linguistiques, des textes historiques, des chroniques, qui sont l'ensemble de la vie de ce monde imaginaire conçu par Tolkien.
Tolkien a créé un univers, il a créé un monde, il a créé une cartographie, il a créé des langues, il a créé des écritures, il a créé et puis il a créé une véritable mythologie, qui est d'ailleurs le Silmarillion.
Il y a deux caractéristiques qu'on peut relever. Tout d'abord, c'est que cet univers créé, Tolkien donne la plus vaste étendue, puisqu'on part de la conception même de cet univers avant même sa création, et jusqu'à la fin ultime qui est évoquée, fin ultime derrière laquelle est esquissée la possibilité d'une nouvelle grande création. C'est le grand champ, puisque c'est le champ, d'où le titre de ce livre, le champ du monde, parce que l'univers est créé par un grand champ. Et là, il faut aussi dire que le procédé de création de Tolkien est tout à fait remarquable. Le point de départ, c'est les langues. Tolkien est un enfant qui, comme beaucoup d'autres enfants, aimait créer des langues imaginaires. Il a continué, il était très doué pour la philologie, il a appris toutes sortes de langues, en particulier les langues les plus difficiles à prononcer, comme le gallois ou le finnois, qui lui plaisaient énormément. Et c'est à partir des langues qu'il a voulu créer des personnages qui puissent parler ces langues, et ensuite créer des histoires qui permettent, et des mondes, des pays où ces personnages puissent intervenir, agir.
Et alors... Donc, ce qui peut paraître, la question qui se pose, c'est de savoir comment un quelqu'un comme vous, Charles Ridoux, qui est professeur d'université, qui est médiéviste, qui est un homme extrêmement sérieux, je vous connais depuis suffisamment longtemps pour pouvoir le dire, vous êtes un homme gay, d'un naturel plutôt avenant, aimable, mais extrêmement sérieux, avec une espèce de rigueur comme ça intellectuelle. Non, mais c'est vrai, il est comme ça, et il est très solitaire aussi. Il faut dire les choses. Il fait de la musique. Tout. C'est vraiment un être comme ça. On l'imagine assez mal, se précipitant.
Je vis comme un hobbit, voilà.
Voilà, vous vivez comme un hobbit, exactement. Alors, est-ce que c'est ça, cette espèce de parentèle avec Bilbo et
non, ce qui
nous a attiré dans...
Ah, je dois dire que je n'ai jamais eu l'intention d'écrire à propos de Tolkien. Mais j'ai découvert Tolkien dans les années 70, un jour de Pentecôte, un lundi de Pentecôte, et je crois que c'était une illumination. Dès la première page, c'était gagné, et j'ai lu ce livre dans un état d'enchantement.
Ah oui, vous avez commencé par quoi? Par
par
Bilbo, le Seigneur.
Oui, puis j'ai lu Bilbo le Hobbit après.
Moi, j'ai commencé par Bilbo que je lisais à mes enfants le soir pour les endormir.
Et c'est une œuvre que j'aime au point que je m'interdis de la lire trop souvent pour qu'elle demeure, elle garde tout son sel jusqu'à mes derniers jours. Et donc, ce livre, je n'avais jamais pensé écrire sur Tolkien. C'est le fruit d'une proposition, de hasard. Un ami savait mon amour pour Tolkien. Un éditeur cherchait quelqu'un pour écrire un livre de synthèse sur Tolkien. Et c'est tombé sur moi. J'ai réfléchi 30 secondes. J'ai dit oui. Et je me suis rendu compte après que je m'étais engagé pour quelque chose, pour un travail immense qui m'a pris un an. Un an où j'ai vécu, je peux dire, jour et nuit dans le monde avec Tolkien et dans le monde de Tolkien, où j'ai appris énormément de choses, parce que j'ignorais pratiquement tout. En fait, il me restait quelques souvenirs. Comme je lisais peu souvent Tolkien, il ne m'en restait que des souvenirs assez vagues. Et c'est là que j'ai pris alors connaissance, d'une part, de l'ampleur de ses écrits, de tout ce légendaire. J'ai découvert avec émerveillement tout ce qu'il avait produit. Et j'ai découvert aussi, avec un très grand intérêt, la qualité, je dirais, de la critique anglo-saxonne qui lui est consacrée. Je signalerai en tout cas deux œuvres. Alors l'une qui est d'un autre médiéviste anglais qui se trouve, il y a de curieuses configurations, qui a été comme Tolkien professeur de langue médiévale à l'université de Leeds, puis à Oxford, il a suivi le même trajet et qui enseigne maintenant aux États-Unis, c'est Tom Shippey, qui a écrit un livre intitulé justement l'œuvre du siècle, ou le Tolkien, l'homme du siècle. Et une spécialiste de Tolkien qui est américaine, qui est Ferlin Flieger, auteur d'un magnifique livre Splintered Light, la lumière réfractée ou diffractée, qui montre en quelque sorte, je dirais, toute une inspiration joannique, qu'on peut dire, qui est présente dans l'œuvre de Tolkien, à partir de la lumière incréée, et puis qui descend dans le monde, se diffracte de diverses manières. C'est une magnifique approche, je trouve, de l'œuvre de Tolkien. On passe de la lumière jusqu'aux ténèbres les plus profondes, du Mordor, et même encore plus profondes.
Plus profond, quoi.
Et puis, un autre livre qu'elle a écrit, qui est remarquable, Question of Time, montre les liens de Tolkien avec des thèmes qui étaient courants dans les années 30, les thèmes du voyage dans l'espace, dans le temps, avec des thèmes, des voyages en quelque sorte organisés par la conduite de rêve qu'on essaie de bien, et qui donne lieu à deux textes qui n'ont malheureusement pas encore été traduits en français, mais qui le seront, je l'espère, un jour. The Notion Papers Club de Tolkien, qui est un récit de voyage d'un père et de son fils, qui c'est Lost Road, la route perdue, et puis l'autre, The Notion Club Papers, c'est le récit de professeurs d'Oxford qui s'entretiennent de ces possibilités de voyager dans le temps et dans l'espace, et qui voyagent dans le monde, dans l'univers du légendaire de Tolkien.
Ce qui est amusant, c'est que ça fait penser à Pickwick. Et moi, j'ai toujours vu dans le Seigneur des Anneaux, en filigrane, il y a quelque chose de pickwickien là-dedans. Dans Bilbo, c'est Monsieur Pickwick.
Oui, cet aspect, il y a cet aspect. Oui.
Ouais, Bilbo, mais il y a
bien d'autres choses.
Oui, bien sûr. Il y a
l'héroïsme, il y a une autre dimension.
Il y a une dimension pickwickienne, puis il y a une dimension chevaleresque, une dimension même apocalyptique, au sens réel du mot. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes aussi faites partie du club très, très, très fermé. select. Ultra fermé, très select. Oui. Des amateurs inconditionnels du révérend Père Bouillet, qui a écrit un livre malheureusement introuvable.
C'est très étrange parce que ce livre, j'espère, sera bientôt réédité.
Pareil. Oui.
Mais donc, il s'agit d'un livre qui s'intitule Prélude à l'Apocalypse ou Les derniers chevaliers du Graal, que j'ai découvert aussi un lundi de Pentecôte, et ce livre grâce à François Plantet,
ce docteur Plantet.
Et il se trouve que le père Louis Bouillet était ami de Tolkien, et qu'il est même le premier en fait en France à avoir parlé de Tolkien. Il évoque certains personnages de Tolkien dans ce livre Prélude à l'Apocalypse, oui. Et il parle un peu plus abondamment, mais très peu quand même, ce n'est que quelques pages, dans un autre de ses livres, encore plus rare à trouver, je crois, qui est un livre consacré aux lieux magiques de la légende du Graal, qui est suivi d'un texte de Mireille Montré, qui est par ailleurs elle-même spécialiste de l'iconographie de l'Apocalypse.
Oui. Je la connais bien.
Oui, très bien. Et donc il y a ce lien effectivement entre le père Louis Bouillet, qui vient d'ailleurs de nous quitter au mois d'octobre dernier, et puis et Tolkien, oui. Et il se trouve que je dirais que si Le Seigneur des Anneaux est le livre qui m'a causé le plus de joie de toute ma vie et qui continue, eh bien je pourrais mettre peut-être en second rang ce prélude à l'Apocalypse, qui malheureusement n'a pas la qualité littéraire de Tolkien.
Non, c'est sûr. Il y a
certaines faiblesses d'écriture.
Un peu lâché.
Oui, mais enfin c'est un grand livre.
Ce qui est très amusant quand même, on peut le raconter à propos pour en dire un mot de Bouillet, enfin du révérend Père Bouillet, c'est que le livre n'est pas signé Louis Bouillet.
Non, il est signé Louis Lambert.
Louis Lambert.
Et d'ailleurs, sans doute avec un clin d'œil à l'œuvre de Balzac.
Bien sûr. Et François Plantet me parlait de ce livre, il me l'a fait lire, etc. Il me disait, je suis certain que ce livre a été écrit par le père Louis Bouillet. J'en suis sûr, c'est son style. Louis Bouillet, c'est un théologien. Comment pouvez-vous comparer un livre d'aventure de science-fiction, apparemment, petite anticipation apocalyptique, à l'œuvre d'un théologien? Il m'a dit, mais c'est évident, regardez. Alors, il m'a appris à lire le livre, d'abord. Il m'a fait comprendre que je l'avais mal lu, pour tout dire.
Il y a trois cercles, en fait. Voilà. C'est trois spirales, le livre de Louis Bouillet. Et quand on a compris, c'est trois spirales.
Et je lui dis, allez donc voir le père Louis Bouillet. Oui. Posez-lui la question. Et alors, François est allé le voir. Il était à l'époque retiré à l'abbaye de... en Normandie, là-bas, dans le fameux triangle.
Le bec, non pas le bec, non,
une non, autre, non, 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 où ils font de la cire.
Oui. Voilà.
Et donc, il est allé le voir, il l'a rencontré, et il lui a dit...
Saint-Vendry, c'est ça.
Et il lui a dit, je pense que vous êtes l'auteur de Prélude à l'Apocalypse. Et le révérend Père Bouillet lui a dit, mais c'est extraordinaire, comment l'avez-vous deviné? Comment pouvez-vous le savoir? Et en plus, c'est le livre le plus important de toute mon œuvre.
C'est ce qui
compte. Ça, c'est quand même
étrange. Oui. Ouais.
Bon, revenons en tout cas à votre livre, Charles Ridoux, sur Tolkien. Vous nous avez dit pourquoi vous l'avez appelé Le Chant du Monde, mais j'aimerais que vous approfondissiez un peu cette explication, parce que c'est quand même un titre assez ambitieux, non?
Eh bien, il existe un autre livre remarquable, à mon sens, sur Tolkien, qui m'a précédé de 2 ans, qui est de Vincent Ferré, et dont le titre est « Sur les rivages de la Terre du Milieu ». Et le livre de Vincent Ferré concerne essentiellement Le Seigneur des Anneaux, Le Hobbit et puis un peu le Silmarillion. C'est un excellent ouvrage, c'est un spécialiste de Tolkien. Et en fait, je me suis... Mais qui reste justement sur la Terre du Milieu, c'est le lieu où vivent les hommes et d'où les elfes s'en vont petit à petit
pour aller
vers le Grand Ouest, vers la Terre de Valinor, le royaume béni de l'Ouest. Et moi, étant orthodoxe, eh bien, le royaume béni, c'est un peu ma demeure, et je me suis installé carrément au pied du trône de Manwë, le plus grand des Valar, et pour contempler cette immensité, ce monde immense. Et alors, le chant du monde, c'est le chant, c'est la beauté de ce monde, qui est une beauté aussi, il y a la beauté magnifique, et puis il y a aussi la splendeur des apocalypses et des catastrophes cataclysmiques. Mais il y a surtout aussi, ce chant du monde évoque la conception qu'a Tolkien de la création du monde, qui se fait par un grand chant, Alors, le dieu l'unique qui a pour nom Eru, qui veut dire en fait l'unique, l'être, celui qui est, convoque les esprits. Alors, les Ainur, leur statut est un peu délicat, parce que les Ainur, on pourrait dire... Tolkien, vers la fin de sa vie, avait tendance à christianiser sa mythologie, à en faire une lecture chrétienne, et pour lui, les Ainur représentaient les archanges. Mais dans un premier temps, dans les années 1930, 1920, pour lui, il assimilait les Ainur aux dieux de l'Olympe, aux dieux anciens. Et donc, Eru convoque les Ainur pour, et il leur suggère des thèmes musicaux par trois fois. Et alors, ce thème musical est développé et puis va s'insérer dans la dissonance de Melkor.
Qui lui ne chante pas comme les autres.
Voilà, parce qu'il n'écoute pas le chant des autres, il écoute sa propre voix. Et Melkor est jaloux et veut posséder aussi la flamme éternelle qui donne la vie. Mais la conception, ce grand chant qui s'appelle d'ailleurs en langue elfique Ainulin Dale, c'est un très beau nom, le grand chant des Ainur, c'est donc ce chant qui m'a donné l'idée de ce titre, le chant du monde. Donc il y a à la fois l'idée de la création par un grand chant et l'introduction de la dissonance est une, en quelque sorte une explication du mal, de l'insertion du mal dans le monde de Tolkien. Et alors il est remarquable à mon avis la façon qu'a Tolkien de présenter, je dirais, une théologie du mal, une théologie implicite, parce que Tolkien est d'abord un conteur, il n'est pas théologien ni philosophe, mais il y a des dimensions théologiques, philosophiques dans son œuvre. Ce qui est remarquable, c'est qu'il va présenter le mal incarné sous deux grandes figures, celle de Morgoth, qui constitue en quelque sorte le mal dans la structure même du monde, dans tout ce qui est cataclysmique dans notre monde, les volcans, on a parlé de tsunamis et d'autres, ce qui est très extrêmement chaud, extrêmement froid, les glaces. Et puis, il y a une autre forme de mal qui intervient ensuite, qui est celle exprimée par Sauron, le seigneur ténébreux qu'on trouve dans le Seigneur des Anneaux, et qui lui vise à la domination le pouvoir sur les esprits, sur les âmes.
Dans l'histoire du Seigneur des Anneaux, on voit ce personnage qui est Frodon, qui porte l'anneau du pouvoir et qui refuse de s'en servir malgré toutes les tentations, alors que la communauté de l'anneau est partagée aussi. Certains voudraient...
Il y a Boromir. Tout le monde est tenté. Même Gandalf est tenté. Ne me tente pas.
On voit qu'il porte cet anneau. Il doit aller le jeter dans les montagnes de la Moria pour le détruire.
Et donc, nous n'avons rien à voir avec la quête du Graal. Ça porte le titre de quête. Ça n'a rien à voir.
Mais c'est exactement le contraire d'une quête, en réalité. Puisqu'il s'agit de se débarrasser d'un objet. Mais si on regarde ça d'une façon un peu simplificatrice, ça ressemble quand même terriblement au calvaire, à la montée au calvaire.
Oui, bien sûr, il y a beaucoup
d'éléments. L'anneau est de plus en plus lourd à mesure qu'il s'approche.
Le poids de l'anneau, comme le poids. Il y a beaucoup d'éléments qui, chez Frodon, évoquent la passion, mais il n'y a aucune assimilation, naturellement, de Frodon.
Frodon n'est pas le Christ.
Et en plus, justement, peut-être que ça témoigne, à mon sens, du grand génie de Tolkien, c'est que Frodon échoue dans sa quête, puisque finalement, il succombe à la tentation de l'anneau, et... Par bonheur, Providence intervient sous la forme de Gollum qui lui mord le doigt, lui arrache le doigt et l'anneau. Mais Frodon est tombé, a chuté comme Adam, mais il a suivi son calvaire jusqu'au bout.
Et alors il y a des correspondances qui sont curieuses quand on relit.
La soif, par exemple.
Au moment, la soif. Mais il y a aussi le fait que quand l'anneau tombe entre les mains des hommes, il tombe entre les mains des hommes parce que le doigt de son possesseur est coupé au cours de la bataille.
Ah oui, bien sûr, le doigt coupé, le thème du doigt coupé.
Et on retrouve ce doigt coupé au début, à la fin, avec le doigt coupé de Frodon. Bon, ça paraît peut-être anecdotique, mais ça montre à quel point c'est une œuvre achevée, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui court pendant des centaines de pages, et qui est un entrelac de rappels, de références répétées. C'est un livre magnifique, immense, c'est une œuvre magnifique.
Alors, j'évoque dans un des chapitres de ce livre, je veux en dire juste deux mots peut-être, si on a encore le temps, l'œuvre d'un autre grand visionnaire qu'il m'a été donné de connaître depuis les années 70, qui est un peintre et compositeur lituanien, du nom de Čiurlionis, Mikolajus Konstantinas Čiurlionis, et qui a vécu de 1875 à 1911, qui est auteur d'un univers... poétique, à la fois musicale et surtout picturale, extraordinaire, d'une très grande beauté. Un musée lui est entièrement consacré à Kaunas, au cœur de la Lituanie. Et ça n'est qu'il y a quelques années, en 2001 ou 2002, je ne sais plus, qu'une exposition a eu lieu d'une partie de ses œuvres au musée d'Orsay. Peut-être l'avez-vous vu. Et c'est... J'ai été frappé par un certain nombre de ressemblances entre, alors que les deux auteurs ne se sont jamais rencontrés, mais de leur vision, en particulier, il y a chez Tolkien un thème constant, récurrent, qui est celui du rêve qu'il avait, qu'il faisait d'ailleurs, d'une grande vague qui engloutissait le monde. Et plus on est de nouveau en actualité. Et ce thème de la grande vague, il l'expose. Un de ses fils d'ailleurs, Michel, faisait lui-même le même rêve. C'est extrêmement curieux. Et cet engloutissement donne lieu d'ailleurs à une des fins cataclysmiques, qui est celle de l'île de Numenor, qui est engloutie. C'est le mythe de l'Atlantide, naturellement, qui est là derrière. Or, on trouve dans l'œuvre de Tchourlionis une sonate, la sonate de la mer, en trois mouvements, allegro, andante et finale. Et le final de cette sonate est aussi une grande vague. Et c'est le seul tableau dans lequel Tchourlionis a signé, dans les vagues, il signe le M-Kaché, qui les trois la lettre de son nom.
Voilà, et je suis content qu'on ait pu parler de ce livre avec Charlie Doux, parce que c'est un livre qui doit être lu, qui mérite d'être lu, surtout pour les amateurs de Tolkien, mais même pour ceux qui
l'ont pas encore. Alors, paru aux éditions Ancrage Les Belles Lettres.
Il est paru chez Ancrage aux Belles Lettres, c'est ça. Merci beaucoup, Charlie Doux.
Quel est son prix, s'il vous plaît?
Ah, son prix, ma foi, c'est 25 euros.
Très bien. Voilà.
Et puis, il faut rappeler...
Et il fait 360 pages, donc il suffit de lire une page par jour. Au bout d'un an,
on a tout compris. Il faut rappeler, effectivement, comme le fait un auditeur, que Le Chant du Monde est aussi un livre de Giono, un roman
oui,
de
Oui, bien sûr, mais là, il n'y a pas de référence sur le musée.
Et en plus, une très belle maison de musique. Oui,
quelqu'un vous demande votre opinion à propos des films, enfin, plus auditeurs.
Eh bien, je dirais que le film, c'est une œuvre qui a des continuateurs, comme une œuvre médiévale. J'évoque aussi le thème de la mouvance. On n'a pas le temps de s'étendre là-dessus. Je dirais qu'en ce qui me concerne, je ne suis pas très pressé. J'ai une telle vision intérieure de l'œuvre de Tolkien que je me suis contenté de regarder la première moitié de la première partie et que je ne suis pas très pressé de voir la suite. Mais on peut, à condition de bien comprendre que le film de Peter Jackson ça n'est pas l'œuvre de Tolkien. Eh bien, on peut voir le film de Peter Jackson peut-être avec du plaisir, mais il faut lire Tolkien. Oui, il y a en tout cas un sens de la beauté, voilà, de la grandeur, et donc je ne suis pas trop critique vis-à-vis de ce film, mais ça n'est pas Tolkien. Hein.
Merci, Charles Doux.
Moi, je rêve d'un pays. Moi, je rêve d'une ville. Moi, je rêve d'un pays. Moi, je rêve d'une ville.
Alors, on va chanter parce que cette petite musique qui est très très charmante, on la repassera une autre fois plus longuement, mais je voudrais que le Marquis nous raconte comment il a eu.
Il a acquis cette musique. Alors je fais très court. Le jour de la grève du métro, évidemment, j'ai souhaité prendre le métro et j'attendais le métro à Madeleine. J'ai essayé d'écouter sur les rails si un métro allait arriver. Il n'en venait pas. Ça faisait 40 minutes que ça durait.
L'oreille collée sur les rails.
Enfin, je m'approchais en regardant qu'on me pousserait pas quand même. Quand je suis pas très aimable. Ceux qui m'approchent le savent. Quand une jeune fille est arrivée, charmante, vers moi, alors, bonsoir monsieur, et elle m'a dit, je fais de la musique et j'ai écrit un roman, et elle m'a donné ce compact, dont on vient écouter quelques lignes, j'ai son livre sous les yeux, je vous en parlerai un tout petit peu plus la prochaine fois, parce que j'aurai peut-être lu le bouquin, et puis on pourra écouter un tout petit peu cette musique.
Oui, ça a l'air mignon comme tout ça.
Ah, c'est charmant.
C'est une jeune fille suisse, ce qu'il faut dire, c'est qu'elle vous l'a donné spontanément.
Il y avait 350 personnes sur le quai, c'est tombé sur moi. Et alors, elle s'appelle Martine de Freuden. Reich, ça peut peut-être
Freudenreich.
L'Empire
de la joie.
L'Empire de la joie.
Le Marquis a-t-il été giflé, demandent les auditeurs.
Non, lisez-le dans le Libre Journal, vous verrez. Tout le monde a foiré.
Les aventures de la non-gifle du Marquis. Voilà, merci messieurs les professeurs de votre présence parmi nous. Je rappelle que le Libre Journal, parce que on n'a pas eu Goffman, le Libre Journal, vous pouvez l'acquérir 4 Place France Litz, 75 010 Paris. en envoyant un carnet de timbres. Et si vous avez envie, c'est le moment, parce que on est à court de timbres, figurez-vous, mes pauvres enfants, c'est la misère noire. Bonne semaine, bonne quinzaine, même puisque je ne serai pas là la semaine prochaine, sauf erreur de ma part. Que Dieu nous garde.
Bonsoir chers auditeurs et bienvenue pour ces nouvelles chroniques de la vieille Europe avec pour cette édition un ordre du jour un petit peu particulier puisque nous avons résolu de consacrer nos deux premières demi-heures et donc faire une heure d'affilée sur un sujet qui est évidemment le sujet du moment puisque nous allons parler de ce fameux référendum qui devient l'alpha et l'oméga de la vie politique française puisque à la fois sur cette antenne de Radio Courtoisie nous avons très très longuement l'occasion d'en débattre, mais on voit que c'est le référendum maintenant qui s'immisce dans les négociations sur les salaires des fonctionnaires, dans les manifs de lycéens, et que tout ça, c'est bien le sujet qui vient dirimer tout ce qui se passe dans la classe politique française aujourd'hui. Donc nous allons y consacrer notre première heure, avec pour en débattre les animateurs habituels de l'émission, donc Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Liert, journaliste également et rédacteur en chef de Relève Politique, Patrick P. journaliste et également, mais qu'on entendra quand même pour notre dernière demi-heure qui sera consacrée à l'actualité culturelle européenne. Et puis un invité de marque sur le sujet, puisqu'il va être aux premières loges pour débattre avec nous du référendum, puisqu'il s'agit de Guillaume Pelletier, qui est actuellement directeur de campagne de Philippe de Villiers pour la campagne du non au référendum 2005, mais qu'on va, Xavier Van Liert, est-ce que vous pouvez d'abord, pour bien poser le débat, présenter un petit peu notre invité.
Oui, bien écoutez, ce qui crève les yeux pour nous, c'est que Guillaume Pelletier est jeune. Guillaume Pelletier, quel âge avez-vous ?
28 ans.
28 ans exactement. Vous avez quand même déjà un sacré parcours politique, puisque comme Philippe Christel l'a dit, vous êtes secrétaire général du MPF, directeur de la campagne du non. Et à ce titre, d'ailleurs, rentrons dans l'actualité. Ce matin, vous lanciez aux côtés de Philippe de Villiers votre campagne pour le non. Dites-nous d'abord, comment ça s'est passé ce matin ? Bien ?
Bah, ça s'est très bien passé. Il y avait une soixantaine de journalistes. Preuve de l'intérêt dont parlait Philippe à l'instant, la campagne référendaire pour les Français. Et nous avons présenté notre matériel de campagne, le Tour de France du non, puisque Philippe de Villiers ira dans une centaine de villes en France. Nous avons présenté nos affiches autour d'un slogan, un non qui va sauver l'Europe. Et puis, bien sûr, on en parlera par la suite, tous nos thèmes de campagne autour de la Turquie, de l'Europe sociale, de l'Europe plus démocratique.
Alors, oui. Effectivement, c'est très bien que vous soyez un partisan du non. Ça n'aura échappé à personne et tout le monde s'en doutait. J'imagine que vous êtes ravi de voir le non monter. Cependant, quelle est la spécificité de votre non ? Car ce qui est frappant, c'est que je trouve dans ce début de campagne, c'est qu'il y a une multitude de noms. Une polyphonie, ou une mélodie de noms.
Polyphonie du nom face à la
polyphonie un petit peu discordante quand même, parce que entre votre nom et celui du fonctionnaire syndiqué CGT, je pense que l'harmonie sera quand même plus difficile à trouver.
Non, il y a une polyphonie du nom, ça c'est évident, face à la cacophonie du oui. Pour reparler de la polyphonie du nom, Philippe de Villiers effectivement était le premier il y a plusieurs mois à rentrer en campagne pour le non au référendum. Autour de trois grands thèmes. Non à l'Europe dominée par la Turquie, non à l'Europe antisociale, avec la fameuse directive Bolkestein, qui faisait la une de l'actualité ce matin dans toute la presse, et non à l'Europe antidémocratique. Pour résumer, comment veut-on que 15 commissaires nommés gèrent efficacement le quotidien de 450 millions d'Européens ? Et ça, c'est directement lié avec, bien sûr, les manifestations de lycéens, les manifestations d'enseignants, les manifestations des chômeurs qui se rendent bien compte que le pouvoir en France n'a plus le pouvoir, que tout se décide à Bruxelles et qu'il est donc, temps que la France retrouve la maîtrise de son destin.
Vous pensez que c'est le sens des manifestations, des mouvements sociaux qui se sont manifestés ces derniers jours?
Je suis persuadé que le malaise social provient du sentiment de dépossession qu'ont les Français. Ils ont bien le sentiment que les hommes politiques en France ne dirigent et ne décident de rien. Le chômage, l'immigration, les délocalisations et tout le reste. On n'a plus les leviers sont à Bruxelles.
Il y a quelque chose de qui nous intéresse particulièrement dans l'émission de ce soir, et c'est pour ça qu'on est content de vous avoir fait venir Guillaume Pelletier, parce que souvent donc vous êtes dans le courant souverainiste, c'est comme ça qu'il est baptisé. Alors on peut en marge dire qu'on est on épouse 100% de ce mot ou pas, mais enfin grosso modo vous êtes dans le courant souverainiste. Le courant souverainiste est relativement peu illustré par des gens de votre âge, de la même manière que une grande partie des débats européens sont relativement peu évoqués par des gens de notre âge à nous tous, puisque les auditeurs de Radio Courtoisie le savent, le choix des chroniques de la vieille Europe, c'est d'aborder ces problématiques européennes sous un angle générationnel qui est celui des 25-35 ans. Je ne donnerai pas les âges de tous les intervenants pour faire rougir le plus vieux et pour culpabiliser le plus jeune. Mais donc ce qui nous intéresse, c'est que au-delà du discours souverainiste classique, qui franchement ne nous emballe pas forcément nous. Vous savez que les chroniques de la vieille Europe se sont données.
Mais je
ne
reconnais pas forcément dans la terminologie.
Voilà, donc ça va être un peu ma question, mais parce que les chroniques de la vieille Europe se retrouvent autour d'une vision de l'Europe puissance, et cette vision de l'Europe puissance a deux adversaires. Elle a la Commission de Bruxelles atlantiste d'aujourd'hui, et puis elle a quand même les tenants de la vieille France franco-française. Alors les périls ne sont pas les mêmes, et on ne va pas choquer les auditeurs de Radio Courtoisie. On va pas mettre Charles Maurras sur le même plan que Claude Lelouch, que l'autre Pierre Lelouch, c'est une grande famille. Voilà, est-ce que aujourd'hui, parce qu'on a, nous on a envie de se dire, il y aurait pas la question de la Turquie, ma foi, est-ce que ça valait vraiment le coup pour nous qui avons une vision de l'Europe puissance de voter non à ce référendum? Il y aurait pas la question turque derrière, ma foi, est-ce qu'on serait pas tenté de voter oui, Patrick Béhel?
Alors, Philippe Christel, que les autres, vous parlez pour vous, hein, Philippe Christel.
Mais je pose une question.
Et je rajoute à ces propos, la Turquie, le premier défenseur de l'entrée de la Turquie a quand même été la France. Si la France n'avait pas insisté depuis 50 ans pour faire rentrer la Turquie en Europe, je pense sincèrement que l'Europe n'en aurait pas parlé. C'est-à-dire, est-ce que le problème que vous soulevez de l'Europe, c'est pas aussi que la France a amené un engagement sur la Turquie et pas plus l'Europe? Beaucoup de pays n'auraient jamais voulu faire rentrer la Turquie, il n'y avait même pas l'idée. Les deux grands leaders qui ont fait rentrer la Turquie ces quelques années sont quand même Lionel Jospin et Jacques Chirac.
Oui. L'Allemagne, en tant que vassal des États-Unis jusqu'à encore une période très récente, donc pour des raisons évidentes, on reviendra pas sur le fait que les États-Unis, eux, veulent évidemment l'intégration de la Turquie à l'Europe, pour beaucoup de raisons. C'est pas tellement le thème forcément de ce soir. Et c'est vrai, la France, d'un autre côté, donc c'était les deux, à la limite, les deux piliers un peu géopolitiques, l'OTAN et l'espèce de puissance post-gaulienne, ou pseudo-puissance post-gaulienne, qui étaient d'accord sur ce consensus de la Turquie.
Oui, voilà, pour faire formaliser la question qu'on a envie de vous poser, Guillaume Pelletier, il n'y aurait pas le sujet de la question, de la Turquie, est-ce que c'est pas se tirer une balle dans le pied que de voter non à ce référendum?
Alors, sur la question de la Turquie, quand vous parlez, effectivement, la France a eu, en 63, avec De Gaulle, l'idée de faire entrer la Turquie, c'était pas l'Europe actuelle, c'était pas l'Europe des technocrates de Bruxelles, c'était l'Europe des nations. Que la Turquie nation s'associe à une Europe qui respecte les nations dans une compétition émulative, très bien, pas le problème. Aujourd'hui, le gros problème de la Turquie, c'est lequel? C'est le fait que l'Europe de Bruxelles se construit de la façon suivante. Plus on est nombreux, plus on est puissant. C'est-à-dire qu'avec 100 millions d'habitants à l'horizon 2020-2025, la Turquie va dominer l'Europe. Donc une Turquie qui intégrerait l'Union Européenne, ça entraînerait immédiatement une Europe turque, pour synthétiser, puisque la Turquie aurait tous les pouvoirs. Plus de voix que l'Allemagne au Conseil, plus de députés européens que la France au Parlement. Et le magazine Économie et Prévision, qui est le magazine officiel de Bercy, du ministère des Finances, l'a avoué d'ailleurs au mois de décembre dernier, en reconnaissant que la Turquie, une fois entrée dans l'Union européenne, serait capable de bloquer 75,6% des décisions européennes. Nous ne voulons pas de l'entrée de la Turquie dans l'Europe, puisque la Turquie dominerait l'Europe de Bruxelles.
Oui, mais ça, sur la Turquie, on est tous d'accord,
d'autant qu'à l'UMP, à l'UDF aussi, enfin, vous êtes au courant de la campagne, notamment de Jérôme Rivière et de Lagarde, etc., sur ce thème, justement, de la Turquie, de la crispation. Et vous savez qu'au Conseil national de l'UMP, tout récemment, un vote stalinien n'a pu être acquis qu'en laissant supposer que ce oui pour l'Europe était aussi un non à la Turquie en même temps.
Ah, mais là, on arrive à la problématique centrale de Nicolas Sarkozy et des autres qui disent oui à la Constitution, non à la Turquie. C'est pas possible. Pourquoi ? Parce qu'il y a un certain nombre de liens évidents entre Constitution et Turquie. On peut les énumérer très rapidement ou en sélectionner quelques-uns. D'abord, la Turquie a le statut de préadhérent et à ce titre reçoit chaque année de la part des contribuables français 47 millions d'euros. Deuxièmement, la Turquie a participé à l'écriture de la Constitution européenne en étant membre de la Convention et a à ce titre obtenu le retrait des racines de l'Europe. Du préambule, Abdullah Gül, le ministre des Affaires étrangères, revenant à Ankara en héros, l'a reconnu. La Turquie a signé la Constitution. On a présenté d'ailleurs ce matin, lors de notre conférence de presse, un document exclusif qui montrait justement Jacques Chirac, Michel Barnier, Jean-Pierre Raffarin signant la Constitution, et quelques minutes qu'après, avec le même stylo et la même encre, Recep Erdogan, le Premier ministre, et Abdullah Gül, le ministre des Affaires étrangères, co-signaient la Constitution. Et on pourrait encore multiplier ce que je disais tout à l'heure. C'est une constitution turque pour une Europe turque, puisque la Turquie, une fois entrée dans l'Union européenne, dominerait la Turquie. Et on a des tas d'autres liens évidents dont on pourra parler tout à l'heure.
Mais alors, derrière le non qui se justifie à plein d'égards, ne serait-ce qu'au sujet de la question turque, derrière ce non-là lié à la Turquie, est-ce que c'est quand même pas un non qui vient du tréfonds de la vieille haine que le nationalisme français, un peu cocardier, a toujours eu pour l'Europe?
Alors, pour reprendre un bon slogan, européen d'accord, mais français d'abord. C'est-à-dire que nous pensons, moi c'est ma génération, moi je pense que les deux sont compatibles, les deux sont liés, on a besoin de la France, et la France sera forte dans une Europe indépendante. Sauf qu'aujourd'hui, on construit une Europe dépendante des Américains, et qu'on construit une Europe vassalisée à l'Europe de Bruxelles et aux commissaires qui imposent en permanence leurs règles. On pourrait citer des exemples concrets de conséquences dans la vie quotidienne des Français. Bruxelles a autorisé le maïs BT11 et le colza transgénique, donc les OGM, il y a quelques semaines. Bruxelles a bloqué la demande de la France de baisser la TVA dans la restauration. Bruxelles souhaite interdire dans les prochaines semaines la pêche à l'anguille. Enfin, on pourrait multiplier les petits exemples de la vie quotidienne qui touchent directement les Français et qui sont inacceptables, puisqu'ils détruisent progressivement à petit feu nos emplois, notre identité, notre sécurité.
Mais quelque part, dans l'argumentaire des tenants du non, et particulièrement, je crois, chez Philippe de Villiers, et dans ce que vous dites, en est une bonne illustration, pour combattre Bruxelles, on cite volontiers les inconvénients qui en résultent pour la France, mais il n'y a pas de discours offensif et alternatif d'Europe. C'est-à-dire qu'il manque une partie, cette Europe, c'est pas celle-là que je veux, moi je veux une autre Europe, et puis quel est le contenu, quel est le projet européen qui fait rêver chez Philippe de Villiers?
Alors justement, c'était tout l'objet... C'est tout l'objet de notre conférence de presse de ce matin. Il y a une partie évidente, c'est un devoir, où on dénonce, où on pointe toutes les dérives de l'Europe de Bruxelles. Il y a eu toute une partie, la seconde, où on a présenté notre alternative, notre projet pour une autre Europe. Nous, ce qu'on propose aux Français, c'est un pacte des nations autour d'un certain nombre de principes. D'abord, le respect des souverainetés nationales et populaires, c'est-à-dire que chacun reste maître de son destin. Deuxièmement, la reconnaissance des coopérations libres entre les peuples, c'est-à-dire que si demain la France, l'Italie ou la France et l'Espagne veulent coopérer, elles puissent le faire sans que Bruxelles les en empêche. Et justement, on revient au problème de la Constitution. La Constitution, dans ses articles fondamentaux, dit la chose suivante. Pour qu'il y ait coopération entre les États, il faut deux conditions. D'abord l'autorisation de la Commission de Bruxelles, et deuxièmement un nombre minimal d'États, 9 États, doivent s'entendre pour pouvoir coopérer. Ça veut donc dire, pour prendre un exemple concret, qu'il y a 30 ans qu'on a construit la belle idée d'Airbus, puis l'idée d'Ariane, où il y avait 4 pays fondateurs, dont la France et l'Espagne, on ne pourrait pas aujourd'hui le faire. Parce que l'Europe de Bruxelles, elle est totalitaire, elle empêche ça. Donc, c'est pour ça que je parlais donc un, souveraineté, deux, coopération, troisièmement, le respect de notre modèle économique et social. Je pense qu'on parlera tout à l'heure de la directive Bolkestein qui fait la une de l'actualité. Quatrièmement, le développement des partenariats privilégiés avec le bassin méditerranéen, puisque la France a une tradition de politique arabe, de politique méditerranéenne, la Turquie et puis d'autres. pourquoi pas, mais partenaires privilégiés, pas besoin de les fondre dans notre dans l'Union européenne. Et puis enfin, sur le domaine de la politique étrangère, et là on va pouvoir en parler avec la question de l'OTAN et avec la question de la politique de défense, de la politique étrangère, une Europe indépendante des États-Unis. Indépendante des États-Unis.
Et quelles sont les limites géographiques de l'Europe que vous défendez ?
D'abord, une Europe sans la Turquie. Ça, c'est une évidence. Ensuite, une Europe qui, pourquoi pas, pourrait s'étendre à l'Ukraine, puis à la Russie. On ne pourra contrecarrer l'hégémonie américaine, d'une part, et la montée en puissance de la Chine, que si on crée une Europe fondée sur les nations, de Brest jusqu'à Moscou, bien évidemment.
Alors, Patrick Péel, je vous vois écrire partout dans le studio des grands « oui, oui, oui ». Non, j'exagère, je rassure les auditeurs de Radio Courtoisie, les chroniques de la vieille Europe n'en sont pas là. Mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie de répondre au discours de Guillaume Pelletier ? Je m'adresse à Patrick, mais si Grégoire, vous aviez l'intervenir...
Je suis comme tout le monde, c'est vrai qu'on a envie de dire non, parce que pour beaucoup de gens, ça va être un grand coup de pied dans la fourmilière. Mais franchement, si le non l'emporte, c'est le traité de Nice. Alors, tout ce qu'on nous raconte sur la Constitution, premièrement, dans la Constitution, une grosse partie de cette Constitution est en fait le traité de Maastricht et tous les traités qui ont déjà été signés. Donc il n'y a pas beaucoup de nouveautés. Le fait de dire non, on va rester au traité de Nice, l'Europe n'avancera plus. La Turquie pourra rentrer dans l'Europe avec le traité de Nice. Faut quand même être clair, on a tout à fait la possibilité avec le traité de Nice que la Turquie rentre. Et puis j'irais un peu marre que ce discours défaitiste qui explique que la France va mal à cause de l'Europe. Alors que je sache, les problèmes d'immigration, les tensions entre les communautés, la montée de l'intégrisme, le chômage, les problèmes scolaires, les trafics de banlieue, le taux de natalité, l'insécurité, ça vient pas de l'Europe. C'est la politique irresponsable de nos gouvernements en France depuis 30 ans. Donc l'Europe, là-dedans, je vois pas où elle est. On met à chaque fois l'Europe en avant, mais en règle générale, premièrement, la France est un acteur très important de l'Europe. Que je sache, la politique agricole a sauvé l'agriculture française et l'Allemagne l'a payé très cher. Je parle en denier. Donc je vois vraiment pas à quoi ça sert. Je prends un autre exemple. Si la France a pu avoir une politique courageuse sur le dossier irakien, elle doit à quoi ? Elle doit à une économie européenne. Les Américains n'ont pas pu faire pression sur notre économie parce qu'il fallait faire pression sur toute l'économie européenne. Donc à partir de ce moment-là, la France a pu avoir une liberté totale de ton, ce qui est quand même un paradoxe. C'est-à-dire que économiquement, on est européen, mais politiquement, on a voulu être indépendant. Mais il y a un moment, il va falloir choisir. Et donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a, pour moi, je vais être un peu provocateur, il y a deux axes. Il y a soit on est européen, il y a un axe Paris-Berlin, avec une association avec Moscou, ou soit il y a un axe français, qui pour moi, j'appelle ça l'axe Paris-Alger-Abidjan-Fort-de-France, et je pense que la Turquie est pas loin derrière. La politique française telle qu'elle a été menée depuis 50 ans, c'est du néocolonialisme, je pense à l'Afrique, je pense que l'Europe a autre chose à proposer à l'Afrique que la politique que la France propose en ce moment.
Alors d'abord, Guillaume Pelletier, sur un point très précis, puisque je vous ai vu réagir, quand vous dites, voilà, si on vote non, qu'on n'a pas la Constitution, on revient au traité de Nice et on aura la Turquie quand même, donc vous n'êtes pas d'accord?
Non, deux choses, si le non l'emporte, ce qui devient de plus en plus probable, deux choses vont arriver. Un, effectivement, provisoirement, on revient au traité de Nice, qui, contrairement à ce que vous disiez, interdit expressément l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne. Pourquoi ? Puisque le traité de Nice limite l'Europe à 27 membres, les 25 actuels, auxquels il faut rajouter la Roumanie et la Bulgarie. Donc la Turquie ne pourra pas rentrer dans l'Europe. C'est un argument très fort du non, d'ailleurs. Si le non l'emporte, le traité de Nice... On revient au traité de Nice, et le traité de Nice interdit l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, premièrement.
D'accord,
et deuxièmement, si le non l'emporte, ce sera un choc salutaire pour l'Europe, puisque nous sommes européens, nous sommes alter-européens, nous sommes pour une autre Europe. Qu'est-ce qui se passera ? La France retrouvera la main, la France reprendra la main, il y aura un nouveau traité qui pourra s'appeler le traité de Paris, avec Jacques Chirac autour de la table et les autres chefs d'État, ils seront obligés de se soumettre à la décision du peuple français et de signer un traité fondateur autour des principes que j'énumérais tout à l'heure, souveraineté, coopération, partenariat.
D'accord, alors Xavier Van Lier, je vous ai vu également réagir.
Oui, moi ce que je voudrais répondre à Patrick Péel, c'est que je crois également qu'un non à la Constitution ne signifierait nullement un simple retour au traité de Nice, mais provoquerait une crise politique, idéologique majeure, dont certes on ne connaît pas l'issue. Je crois simplement qu'on serait obligé enfin de poser la vraie question. Et cette vraie question, c'est l'Europe, pour quoi faire ? Jusqu'ici, l'Europe était et l'approfondissement de l'Europe était considéré comme une fin en soi. C'est cela la vraie question. Vous dites, vous répondez l'Europe puissance. C'est le second point d'objection que j'ai avec vous. Mais l'Europe puissance, certes, moi je crois au contraire que l'Europe telle qu'elle résulterait d'un oui à la Constitution, s'accommoderait parfaitement que la France continue à jouer dans son précaré africain. En revanche, ce dont je suis certain, c'est qu'elle n'accepterait absolument pas que se mette en place un axe Paris-Berlin-Moscou. L'Europe élargie telle qu'elle s'est mise en place et les équilibres institutionnels tels qu'ils résultent de cette constitution interdiraient désormais à la France, à Paris, à Berlin, de mettre en place cet axe. Le glacis désormais américain est devenu un fossé infranchissable. La seule issue pour que Paris et Berlin puissent jouer avec Moscou, créer cet axe de puissance qui pèserait sur l'avenir non seulement de notre continent, mais aussi du monde, c'est de passer par-dessus la tête de la Pologne, de la Hongrie, de la Slovaquie et autres pays de Václav Havel, Glucksmann et consorts. Cette Europe est une Europe prison, une camisole qui l'empêchera de développer sa puissance.
Vous êtes dur pour les Hongrois, parce que nous avions signalé à la dernière émission qu'ils avaient fait un certain nombre de revirements pour se rapprocher de l'axe Paris-Berlin-Moscou.
Oui, même Václav Havel n'a pas été si mauvais que ça.
Pour revenir sur ce que disait Xavier, c'est vrai que c'est fort.
Václav Havel signe toutes les pétitions qu'il peut contre Vladimir Poutine à chaque fois qu'il en parle une dans Le Monde, et il se précipite pour les signer en compagnie de Monsieur Kagan, le chantre de la puissance américaine, de Madeleine Albright, qui était l'artisane du bombardement de Belgrade, et autres politiques américaines que vous connaissez aussi bien que moi.
Oui, mais ça peut pas être le seul prisme, mais bon.
Non, pour revenir sur ce que disait Xavier, revenons à l'origine de l'idée européenne. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont conscience d'une chose, pour continuer à accroître leur puissance, il leur faut déverser leur marché sur l'Europe. Il y a un obstacle à ça, c'est des nations fortes. Ils ont donc l'idée, avec Jean Monnet, qui était un grand banquier proche de Roosevelt, aux États-Unis, ils ont l'idée donc de construire une Europe supranationale dominée par l'Amérique. Et vous parlez de Madeleine Albright d'ailleurs, puisque leur instrument fort, ce sera l'OTAN pendant des années. Et ça se matérialisera au début des années 90 et tout au long des années 90 avec le conflit yougoslave, dans lequel les Américains vont vite remplacer l'ONU, l'OTAN va vite remplacer l'ONU en Yougoslavie. Tous les pays limitrophes, dont la Hongrie, et puis ça montera jusqu'à la Pologne, vont soutenir les Américains, et on l'a très bien vu, en mai 2004. Un exemple très très intéressant et très révélateur. L'Europe fait un chèque de 3,5 milliards de dollars à la Pologne pour l'aider à se remettre à niveau, et tout particulièrement pour protéger son agriculture. Dans les 15 jours, la Pologne achète pour remplacer ses MiG-21 des F-16 américains. C'est donc bien l'exemple que cette Europe est dominée par l'Amérique. Et on l'a vu, tout le monde en parle, hein, mais on peut le rappeler, à l'occasion de la crise irakienne. À l'occasion de la crise irakienne, 18 pays sur 25 ont soutenu l'intervention américaine. Voilà, donc cette Europe, elle est américaine. Donc il faut changer d'Europe.
Si je puis ajouter quelque chose, toutes ces dérives-là qui étaient conjoncturelles et prises au fil de l'eau, et auxquelles ont certes également participé pour certaines d'entre elles nos dirigeants, seront désormais inscrites dans le marbre, puisque l'article consacré à la défense européenne dans la Constitution stipule que la défense européenne devra être compatible avec celle de l'OTAN.
C'est l'article 1.41 du traité constitutionnel.
Ou 31, je suis plus sûr, mais enfin je vous fais confiance. 31 ou 41, les auditeurs pourront s'y reporter. Donc stipule que la défense européenne devra être compatible avec celle de l'OTAN. Autant dire qu'on va déléguer à l'OTAN la mise au point de nos objectifs de défense européens, ce qui semble parfaitement délirant. Une constitution s'est faite pour poser un acte de souveraineté, et on en est non seulement à renoncer à cette souveraineté, à l'inscrire dans le marbre, mais aussi à définir quelle devra être notre politique. On comprend que Valéry Giscard d'Estaing et expliquer que cette constitution avait une durée de vie d'approximativement 50 ans. Quand on descend à ce genre de détails, ce qui est minable pour une constitution, ça prouve bien qu'on vient bien au-delà. C'est une déclaration de politique générale, et une déclaration de politique générale pour 50 ans qui est néfaste.
En un mot, on a voulu faire une Europe addition de puissance, et on a fait une Europe addition d'impuissance. Et l'exemple de la politique de défense est très juste, avec l'article 1.41. Il y a aussi l'exemple de la politique étrangère. Qu'est-ce qu'ont voté les députés UMP, UDF et PS l'année dernière au Parlement européen ? Le fameux rapport Lachey, qui dit quoi ? La France devra abandonner son siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU au profit d'un siège unique pour l'Union européenne. Et qui l'occuperait ? Joschka Fischer, le ministre des Affaires étrangères allemand. Voilà à quoi va mener la Constitution européenne et leur idée d'Europe supranationale soumise aux États-Unis, puisque de toute façon, la majorité des pays de l'Europe de Bruxelles, de l'Europe actuelle telle qu'elle est constituée, sont favorables à l'influence américaine. Pourquoi ? Parce que au début des années 90, l'Europe n'a pas su leur tendre la main à la suite de la chute du mur de Berlin, à la fin du rideau de fer. Mmh. On rappelle très bien, François Mitterrand avait dit ils pourront nous rejoindre, mais on verra ça dans 10 ou 15 ans. Bah, résultat, l'OTAN a été plus rapide que nous, et maintenant ces pays sont sous la coupe. Les Américains.
Oui, enfin là c'est, nous sommes totalement dans le cœur de la contradiction, hein, si je peux me permettre, parce que vous parlez de l'Europe américaine en parlant de ces pays de l'Europe, les PECO, pays d'Europe centrale et orientale, très bien, à l'époque où Jean-Pax Mayfray voulait qu'ils nous rejoignent rapidement, mais en l'espèce, c'est pas l'Europe américaine, ce sont des nations, comme vous les aimez, des États-nations libérés du joug soviétique, hein, vraiment, comme vous les aimez, bah, qui ont préféré la garantie de l'OTAN à la séduction de l'UE. Bon, ben voilà. Et c'est pareil pour les F-16 polonais. Je trouve l'argument un peu spécieux, parce que c'est une défaite, effectivement, pour l'Europe. En soi, l'achat des F-16 par la Pologne quelques semaines après l'aboutissement des tractations qui ont précédé son intégration à l'Europe. Mais là, une fois de plus, c'est surtout c'est les défaites des nations, puisque qui était en lice pour vendre des avions à la Pologne en dehors des Américains, c'était les Français et les Suédois, et qui ont et c'était pas du tout des consortiums européens, hein, qui étaient en cause. Donc là, je vois pas très bien en quoi. On a l'impression que les arguments, beaucoup d'arguments, en fait, des souverainistes ou disons des patriotes français, pour ne pas être trop mal poli, sont de dire bon ben, il y en a marre de cette Europe, mais tout simplement parce qu'il n'y a pas assez d'Europe dans bien des cas, parce que dès que vous poussez l'argument plus au fond, c'est bien une absence d'Europe. Et l'Europe puissance que on appelle tous de nos voeux, elle peut difficilement quand même accoucher de ces espèces de malgré tout petites coopérations à la petite semaine entre États-nations qui sont toujours en train de se suspecter les uns les autres de zones d'influence qui datent de périodes aujourd'hui révolues face aux enjeux.
Mais elle n'est pas là la question. La question, est-ce qu'on veut... Il y a deux choix d'avenir. Ou on prend une Europe soumise aux Américains, l'Europe telle qu'elle est construite aujourd'hui, et à ce moment-là, on perd tout. C'est-à-dire, on perd notre siège à l'ONU, on perd notre possibilité de dire non et d'avoir un droit de veto pour dire merde aux Américains à l'occasion de la crise irakienne.
Ce qui les empêche d'agir, oui, on l'a vu, oui.
D'accord.
Non, mais... Ah oui, non, mais c'est quoi la politique, oui.
Non, mais... On ne peut pas dire le contraire que
Grégoire France... Gambier, vous n'allez pas nous faire, après nous avoir fait quasiment l'apologie des F-16, ces avions formidables qui ont été choisis à l'issue du jeu du libre marché.
Vous savez très bien comment effectivement ce marché a été conquis de façon à la fois sournoise et agressive
ce
par les Américains, on le sait bien. Mais on peut pas, là, franchement, on peut pas accuser l'Europe d'être responsable de quelque chose. C'est bien l'absence d'Europe, c'est-à-dire au moins, à tout le moins, d'une réaction commune des nations européennes, hein, puisqu'on parle de ça, après cet acte quand même assez grossier de la part des Polonais, mais les Polonais sont toujours vendus aux puissances les plus extérieures possibles de leurs frontières. Ce qu'on peut reprocher, effectivement, c'est qu'il n'y ait pas eu de coordination de la riposte européenne à cet acte.
Coordination, exactement.
Bah voilà, oui, mais...
Il est quand même étonnant que dans la Constitution, ils ne soient pas prévus.
Non, mais Grégoire Gambier, l'objet du débat n'est pas de savoir s'il faut plus d'Europe sur tel ou tel point, c'est de savoir si on veut de la Constitution. Or, la Constitution ne résout pas ce problème-là.
La Constitution pose la question de l'Europe. Giscard...
Constitution n'est pas faite pour poser la question de l'Europe. En l'occurrence, elle ne la pose même pas. Elle donne des réponses avant que les questions aient été posées.
Non, je ne suis pas d'accord. La Constitution est l'occasion, justement, de parler de l'Europe, c'est-à-dire qu'est-ce que l'Europe, son projet, ses frontières. Et voilà. Et nous en sommes là.
Parce que dans le discours... Avant la Constitution, qu'il fallait parler de l'Europe et de savoir quel était son projet et ses frontières.
Mais ni vous ni moi, nous ne faisons qu'un calendrier politique
en
France.
Cette Constitution ne résout même pas.
Pour prolonger, et non pas de l'idéal.
Grégoire Gambier, pour prolonger justement le paradoxe entre là il faut plus d'Europe, là il faut moins d'Europe. Si on prend le sujet social, puisqu'on l'a abordé en début d'émission, Quel paradoxe, effectivement, pour un jeune Français qui paye ses impôts et qui crée son entreprise aujourd'hui et qui travaille plus que 35 heures, de devoir répondre aux questions posées par la directive Bolkestein. Oui, probablement, notre modèle social va être sérieusement bousculé par la directive Bolkestein, mais ce modèle peut-il nous épargner et nous casser une bonne fois pour toutes la gréviculture à la française et les blocages permanents dont ce pays souffre en permanence? Et d'ailleurs, parce que c'est une les patriotes les plus libéraux et dont certains s'expriment sur cette antenne tiennent ce type de discours et on peut les comprendre. Est-ce que quelque part, allez, ma foi, pour un sujet qui en fait va être relativement banalisé parce que Nice a déjà fait beaucoup de choses et que beaucoup de coopérations sont aussi en latence dans l'Europe, est-ce que ça vaut pas le coup de mettre un petit coup de pouce sur le oui? Pour se débarrasser une bonne fois pour toutes de ce qui nous entrave et qui nous exaspère.
Moi, je vais vous dire, je pense pas, et vraiment, je parle sérieusement, je ne pense pas que 15, pour répéter tout ce que je disais tout à l'heure, que 15 commissaires européens gèrent efficacement le quotidien de 450 millions d'Européens. Et je ne crois pas que ce que une nation ne veut pas faire.
La CGT, c'est pas le quotidien de 450 millions, c'est le quotidien de 55 millions de Français.
Pour répondre à votre question, il faut prendre un exemple concret. Il y a un département en France qui a un taux de chômage deux fois inférieur à la moyenne nationale, 5% de chômeurs. Il y a un département en France qui a connu le plus grand nombre de créations d'entreprises en 2004. Il y a un département en France qui n'a connu aucune délocalisation dans les mois précédents, c'est la Vendée. Pourquoi ? Parce que Philippe de Villiers a eu le courage, dans son département, de créer des Vendéopôles, de créer des synergies entre les salariés, les chefs d'entreprise, d'inventer, de mettre en valeur l'identité vendéenne, de créer un spectacle culturel, le Puy du Fou, de créer un grand spectacle sportif, symbole de la compétition, justement, entre les nations, le Vendée Globe, etc., etc. N'attendons pas de l'Europe ce que la nation ne peut pas faire. C'est deux choses différentes.
Ce qui prouve que l'Europe ne l'a pas empêché de faire ce qu'il a fait.
Bizarrement.
Donc,
L'Europe va sérieusement compliquer son travail. Exemple de la directive Bolkestein, je le rappelle pour les auditeurs, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que demain, si un plombier polonais veut venir s'installer et travailler en France, il sera soumis non plus au droit français, mais au salaire polonais, à la réglementation du travail polonaise, aux règles d'hygiène polonaise, aux règles de sécurité polonaise. C'est la fin totale de notre modèle économique.
Oui, alors est-ce que le premier Tamoul, lui, la sécu, ça lui va bien. Oui, donc ça, c'est un bon modèle économique aussi.
Ah, mais attendez. Non, mais je suis d'accord avec vous, Grégoire. Il y a deux choses différentes. Il faut, un, et c'est le sujet actuel de cette campagne, une autre Europe. Pour en reparler tout à l'heure. Et deux, évidemment, il faut une façon différente de gérer la France. Bien sûr qu'il faut, il faut mettre dehors ceux qui nous gouvernent actuellement. De Mitterrand à Chirac, rien n'a été réglé. Mais les problèmes d'immigration, par exemple, si demain, un homme politique arrive et devient président de la République et a le courage de s'atteler au problème de l'immigration, il ne pourra plus le faire, puisque tous les pouvoirs d'immigration sont passés sous les carcelles de Bruxelles le 1er mai 2004. Dernier exemple, la Constitution consacre l'ouverture totale et définitive des frontières et la fin des contrôles fixes, mais aussi mobiles à nos frontières. Au moment même où, il y a quelques semaines, l'Espagne et son gouvernement socialiste viennent de régulariser 700 000 immigrés clandestins qui vont pouvoir venir s'installer et travailler en France. Est-ce que c'est raisonnable? Je ne dis pas que l'Europe nous empêche de faire, mais elle accentue, elle aggrave en permanence les problèmes.
Pour répondre sur le problème de l'immigration, déjà un bémol sur l'Espagne, le trois quarts de son immigration vient d'Amérique du Sud et dont d'Argentine juste après la crise. Donc ils n'ont pas réglementé, je veux dire, permis aux gens du Maghreb de venir en masse. Deuxième chose, je pense sincèrement que demain un parti politique pro-européen qui dira à ses partenaires, voilà, nous acceptons les traités tels qu'ils existent, Maastricht, la monnaie unique, etc. Mais le problème de l'immigration dans notre pays, nous allons le régler. Je peux vous assurer qu'il n'y aura aucun problème pour régler. Le problème qu'il y a souvent chez les partis qui sont pour une politique réaliste de l'immigration, c'est qu'ils disent, voilà, on sort de la monnaie unique, on sort de Maastricht et on fait peur à nos propres partenaires et on fait peur aux propres Français parce que les Français se sont quand même habitués à cette Europe. Sortir de l'Europe, c'est l'inconnu et donc en fait, on se fait peur à soi-même. Et donc, on a très peu de chances d'arriver au pouvoir avec ces conditions-là. Et dans ce cas-là, on peut dire ce qu'on veut. Je pense sincèrement que le problème de l'immigration, et on l'a vu avec l'Autriche,
Quand l'Autriche a eu un parti dit extrémiste, on a dit « Oh là là !» Et la France a hurlé en disant « Voilà un parti d'extrême droite qui arrive. » Qu'est-ce qui arrive aujourd'hui? C'est que l'Autriche est rentrée dans l'Europe, a donné ses garanties, et aujourd'hui l'Autriche est la seule nation qui a proposé un partenariat avec la Turquie. Donc à ce niveau-là, c'est
en lieu et place de l'intégration.
En lieu et place de l'intégration.
C'est un des rares pays européens aussi où l'immigration légale et l'afflux de réfugiés politiques est en baisse drastique.
Avec le Danemark, on en avait parlé la dernière fois.
Tout à fait.
Donc la question. L'Autriche a eu le courage de mettre en place un certain nombre de mesures. Très fort.
Des mesures, mais en disant qu'elle était pro-européenne. Et je crois que ça, c'est important.
Mais nous, on n'est pas anti-européen. On n'est pas anti-européen. On est pour une autre Europe.
C'est toujours difficile
de dire. Mais c'est toutes ces questions. Turquie, Bolkestein, la TVA, les OGM. Moi, ça m'intéresse pas qu'il y ait 15 zozos à Bruxelles qui m'imposent toute la journée ce que je dois faire, ce que je dois manger, ce que je dois penser, comment je dois dormir, etc.
Guillaume Pelletier, vous savez très bien que ce sont pas 15 zozos à Bruxelles qui vous imposent quoi que ce soit. C'est le Conseil des ministres européens qui d'abord donne les ordres, les directives, enfin les ordres stratégiques,
non,
et ensuite les commissaires. Non, mais bien sûr, l'administration.
Dans la Constitution, dans la Constitution, qui a le monopole d'initiative? C'est plus le Conseil, c'est la Commission européenne qui a le monopole d'initiative. Le Conseil et le Parlement ne font que décider. Ils n'ont pas le monopole. Ils n'ont pas d'initiative. C'est incroyable. Il y a un Parlement européen, ça s'appelle Parlement. Moi, je suis prof d'histoire-géographie. Ce que j'enseigne à mes élèves en éducation civique, c'est qu'un Parlement, il a l'initiative des lois. Et le Parlement européen, il n'a pas l'initiative des lois.
Enfin, heureusement, peut-être.
Oui. Non, mais exactement. Alors, non, mais. C'est leur absurdité.
Donc,
Finir légèrement très rapidement sur la question sociale. Certains partisans du oui nous disent, ah, mais c'est pas grave. Effectivement, la Commission a le monopole d'initiative, a proposé la directive Wolkenstein. C'est pas grave. Au Parlement européen, la France pourra dire non. Mais non, c'est fini ça. La Constitution fait passer toutes les questions sociales sous le domaine de la majorité. Or, Bruxelles vient d'annoncer cet après-midi que sur les 25 pays, 19 pays étaient pour la directive Bolkestein, 6 étaient contre.
Bah, pour cause, oui. Voilà.
Bah oui, les 10 pays de l'Est et les pays anglo-saxons.
Alors, une très courte pause dans ces chroniques de la vieille Europe sur Radio Courtoisie, dans laquelle nous recevons donc Guillaume Pelletier, secrétaire général du MPF et directeur de campagne de Philippe de Villiers pour le non au référendum 2005. Donc quelques messages d'auditeurs, je dois dire assez équilibrés, donc je ne vais pas les lire parce qu'il y en a beaucoup. Beaucoup d'auditeurs qui rejoignent le court débat qu'on a eu sur la Turquie, mais c'est vrai qu'on n'est pas, on est largement tous d'accord sur le sujet. Un certain nombre d'auditeurs qui s'étonnent que l'on pose la question du non tellement elle leur paraît évidente. Et puis d'autres auditeurs qui nous disent, bah écoutez, je comprends pas trop pourquoi les chroniques de la vieille Europe s'accrochent au non, puisque on nous avait habitués à des débats plus larges sur l'Europe puissance, et que cette Europe-là passe probablement par le oui et par le dépassement des vieilles nations. Donc voilà, on a un équilibre, un équilibre des messages. On va pas les commenter plus l'un que l'autre, mais puisque leur tourne également. Mais question que j'ai envie de vous poser, qui peut-être renvoie à l'objection de Patrick PL, qui dit voilà, mais quelque part le nom nous dit votons non, et puis après on verra bien. Et il y a un petit côté chaos effrayant. Qu'est-ce qui va se passer demain? Si le non l'emporte, c'est vrai que les sondages aujourd'hui lui donnent de plus en plus d'importance, et donc on peut espérer ou on peut attendre un résultat qui soit conforme à vos efforts. Qu'est-ce qui va se passer demain? Qu'est-ce qu'il faut faire le lendemain du référendum? Qu'est-ce que vous proposez?
Je vais vous dire déjà ce qui va pas se passer et qu'on entend malheureusement sur toutes les ondes de la part des partisans du oui. J'ai entendu samedi matin des partisans du oui nous dire que si le non l'emportait, la France perdrait ses Jeux Olympiques. Premier exemple. On pourrait rajouter, effectivement, si le non l'emporte, les salaires ne sont plus payés en France, ni les retraites. Et Philippe de Villiers a employé cette boutade ce matin. Il s'est renseigné, il a consulté en Vendée, et tout le monde lui a dit, si le non l'emporte, le Vendée Globe, c'est fini. Pourquoi est-ce que la mère sera tellement furieuse qu'elle finira par se retirer? Donc, ceux qui nous disent... c'est oui, c'est le oui ou le chaos, disent n'importe quoi. On a bien vu un exemple. On nous avait prédit au moment où Dominique de Villepin courageusement à la tribune de l'ONU s'est adressé aux nations libres pour dire non aux géants américains, on nous avait prédit le chaos pour la France, la fin des exportations, la ruine économique.
Grâce à l'euro, ça n'a pas eu lieu.
L'effondrement, et on en parlera de l'euro.
Non, mais là, en l'espèce. Oui, en l'espèce, oui. Je ne parle pas des résultats
économiques.
C'est
un petit avantage, un petit avantage
en
de l'euro.
En protection, oui.
Exactement. Moi, ce que je dis, c'est que si le non l'emporte le 29 mai prochain, deux choses vont arriver. Un, provisoirement, pour les quelques mois qui nous sépareront du nouveau traité, on reviendra au traité de Nice. Ça nous préservera au moins de l'entrée de la Turquie. Je le rappelle aux auditeurs, le début des négociations d'adhésion avec la Turquie sont prévues le 3 octobre prochain. Si le oui l'emporte, les négociations s'ouvriront et elles deviendront irréversibles. La Turquie rentrera dans l'Europe. Si le non l'emporte, toutes les chancelleries le savent et le pensent déjà, si le non l'emporte, les négociations seront automatiquement suspendues. Tout ça pour dire que le seul moyen de s'opposer à l'entrée de la Turquie dans l'Europe, c'est de voter non à la Constitution. C'est déjà une raison largement suffisante pour voter non. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, Jacques Chirac sera contraint de faire... où il se soumettra, où il se démettra. S'il ne veut pas changer d'Europe, ben il n'aura qu'à partir. Mais sinon, il écoutera le message du peuple français qui aura voté non. Il réunira ses 24 collègues chefs d'État de l'Union européenne et ils reconstruiront un autre traité qui respectera davantage les nations et on pourra enfin avoir un grand débat européen pour savoir quelle Europe nous voulons. Le débat, il n'est plus entre « je suis pour l'Europe, je suis contre l'Europe », c'est dépassé, ça c'était les années 80 ou début des années 90. On est tous européens, on est une génération, bien sûr qu'on a conscience que l'Europe, elle est indispensable. Mais moi, l'Europe américaine, l'Europe qui m'impose en permanence ce que je disais tout à l'heure, ça m'intéresse pas. Moi, je veux une grande Europe qui aille justement de Paris, ce que vous disiez tout à l'heure, Paris, Berlin, Moscou, qui puisse grandir, se renforcer, s'opposer aux géants américains, s'opposer à la montée en puissance de la Chine. C'est quand même ça, les défis de demain.
Voilà, donc qui répond en partie à une question d'auditeur. On en a souvent, et c'est vrai que c'est un peu pénible de répéter la même chose. Êtes-vous là pour construire l'Europe ? Donc la question est générale. Êtes-vous là pour construire l'Europe ou pour être contre les États-Unis ? On est là pour construire l'Europe, mais si elle doit se construire contre les États-Unis, qui construisent l'Europe contre les peuples d'Europe, c'est comme ça. On n'y est pour rien. Adressez-vous à la Maison Blanche. Alors, effectivement, on a parlé de l'euro, et il y a une question. Il y a un auditeur qui nous dit je crois quand même que Monsieur Pelletier est bien plus anti-européen qu'il n'est alter-européen. Et j'aimerais donc savoir, et donc vous allez pouvoir répondre à cet auditeur, s'il compte revenir au franc.
Absolument pas. Ce que je dis par
rapport... C'est une bonne nouvelle.
Parce que
les souverainistes qui disent pas, enfin qui disent pas, faut revenir au franc...
Bah, il y a les sesterces, c'est les meilleurs. Comme hypothèse.
C'est ça qu'on préfère. Exactement. Ce que je veux dire par rapport à l'euro, c'est un petit clin d'œil quand même. On nous avait, rappelez-vous à l'époque, promis... que l'euro serait un multiplicateur de prospérité, un multiplicateur de croissance. L'euro a été une réussite technique, mais il faut le reconnaître, c'est quand même pas une réussite économique. Pour prendre un chiffre, les trois pays dans l'Union européenne qui ne sont pas dans l'euro, Danemark, Suède, Angleterre, les chiffres d'Eurostat, l'Institut de statistique européenne vient de publier ces chiffres, ont deux fois plus de croissance que la France et deux fois moins de chômage. Bon, voilà, c'est un petit clin d'œil.
Oui, mais que la France, question. Justement, vous dites, parce que dans quelle mesure l'euro n'a pas été plombé, justement, par les mauvais résultats économiques de la France et de l'Allemagne. Donc, bon, une fois de plus, hein, il y a toujours, dans ce type d'argument, est-ce que c'est la faute des vieilles nations?
Ce qu'on retiendra, c'est que l'euro n'est pas remis en cause dans le...
Non,
dans
mais
le,
voilà.
Dans
non, le mais projet. Ce que je veux dire, c'est que, on nous avait dit, vous allez voir, mes chers compatriotes, avec l'euro, vous allez, il y aura plus de chômage, on va passer à une croissance de 5% par an, ça va être exceptionnel. Bon, c'est pas vrai, voilà.
Oui, mais on dit toujours n'importe quoi dans ces cas-là. Vous avez cité tout à l'heure les partisans du oui, enfin, où ils en étaient, voilà.
Alors, un message rapide pour que, qu'on ne se soit pas fait mal compris de nos auditeurs, fut-ils polonais et même polonaises. Ah oui, une polonaise nous écrit, je vous ai écouté, si je comprends bien, toute cette mauvaise Europe est la faute des Polonais.
Mais non,
n'oublions pas qu'ils ont participé massivement à détruire le communisme.
J'aime beaucoup la Pologne.
Donc, on est là tous pour dire que les peuples européens ont tous notre affection et le peuple polonais en tant que peuple, c'est tout évidemment pas lui qui est responsable
de là où on en est.
On peut rendre hommage à Jean Sobieski qui était bien plus avisé qu'un certain roi de France... la même époque.
Ce que je veux dire aux Polonais, ce que je veux dire aux Polonaises et aux Polonais, c'est que si cette Europe de Bruxelles continue à se construire, ils auront des souffrances terribles quand on sait que 30% de leur économie vient de l'agriculture et que dans 10 ans, ils n'auront plus une subvention, puisque l'Europe, toute la politique agricole commune en 2013 est terminée. Hein, pour prendre un exemple, c'est l'histoire. On va prendre un exemple de salaire en Turquie, si la Turquie rentre dans l'Union européenne. Moyenne du salaire horaire moyen en Europe, 25 euros. Moyenne du salaire horaire moyen, je me répète, salaire horaire moyen en Turquie, 1,5 euros. Donc, vous voyez bien que les délocalisations, les flux migratoires, il y a un sondage qui vient d'être publié en Turquie extraordinaire, 44% des Turcs se disent prêts à déménager dans un autre pays de l'Union européenne si la Turquie venait à adhérer à l'Europe. Pourquoi ? Parce qu'ils savent très bien que pour augmenter leur pouvoir d'achat, pour gagner plus, il faut partir en France ou en Allemagne.
Et puis pour finir sur la Pologne fait partie de, si elle décide d'avoir recours à la voie référendaire, ce qui n'est pas acquis aujourd'hui, fait partie des pays qui peuvent éventuellement bousculer l'ordonnancement du oui.
Et pour conclure sur la Pologne, si vous me permettez.
Allons-y.
Au Parlement européen, pour bien montrer à celui qui nous cataloguait d'anti-européens, nous sommes alter-européens, nous avons un groupe parlementaire au Parlement européen de 50 membres, dont une dizaine de Polonais avec qui nous passons de très bonnes soirées.
Parfait, entre j'espère autres. Que vous travaillez un peu dans
oui,
la journée quand
un
même.
Peu.
Oh, bah, parce que faut que les élus travaillent.
Parce qu'on travaille beaucoup.
Alors, justement, puisqu'on parle d'élus, alors on va peut-être redescendre un peu d'un cran de la doctrine à la tactique politicienne, parce que ça intéresse aussi nos auditeurs, qu'on le veuille ou non, et puis leur tourne, et vous devez nous quitter bientôt, donc je voudrais qu'on évoque ça. Voilà, on a parlé de la polyphonie du non. Aujourd'hui, c'est sûr que sur le terrain politique, à droite en tout cas, Philippe de Villiers est largement la figure de proue de la campagne du non. Et puis c'est vrai que on le voit évoluer plutôt favorablement dans son discours entre un non à l'Europe qui était très caricatural franco-français et puis un non à l'Europe qui est davantage constructif et davantage européen dans ses convictions. Parlez-nous un petit peu de vos rapports avec les autres forces politiques de droite comment ça se passe, est-ce que ça bouge, est-ce que on a parlé de Jérôme Rivière et Jean-Christophe Lagarde, comment?
Alors pour être très concret,
Nicolas Dupont-Aignan,
si vous me permettez, je voudrais lancer un message aux auditeurs de Radio Courtoisie.
Allez-y.
Très rapide.
C'est le moment.
J'ai été Philippe Devilliers et je l'ai accompagné, a été reçu cet après-midi par Dominique Baudis, au sujet du temps de parole. Vous savez qu'il y a une inégalité criante entre l'oui et le non, inégalité du temps de parole, inégalité aussi du financement, puisque tout l'argent est donné au oui. Michel Barnier a débloqué, il y a deux mois, 10 millions d'euros pour des spots de propagande à la radio, et il n'y a pas un centime pour le non. C'est la raison pour laquelle Philippe Devilliers, ce matin, a lancé le téléphone du non, le 0826 10 80 80, 0826 10 80 80, qui permet à tous les Français qui sont intéressés d'appeler ce numéro, d'avoir des argumentaires, d'avoir les adresses de nos comités départementaux du non, et surtout de nous aider financièrement, 0826 10 80 80. Voilà pour cette petite brève. Pour répondre plus précisément à votre question, nous avons bien évidemment d'excellents rapports avec ceux qui à l'UDF ont eu le courage de se lever et d'appeler à voter non. Jean-Christophe Lagarde, député maire de Drancy, Philippe Folliot dans le Tarn. Nous avons d'excellents rapports avec les parlementaires UMP, une vingtaine hein, en tout, qui ont eu le courage eux aussi de se lever pour dire non. Un exemple très concret, demain, Philippe Devilliers est en dîner débat près de Cholet. Qui va l'accueillir? Gilles Bourdelet, député maire UMP de Cholet, André Lardeux, ancien président du conseil général et sénateur UMP du Maine-et-Loire. Donc il y a une synergie, vraiment. Philippe Devilliers, comme vous le disiez, est reconnu maintenant comme le chef de file du non, au moins à droite, et par conséquent, tous ceux qui ont le courage de leurs opinions viennent nous donner un clin d'œil, nous aider dans nos débats locaux, puisque comme je le disais tout à l'heure, Philippe Devilliers organisera une centaine de déplacements en France.
Ouais. Heureusement à droite, ouais, parce qu'à gauche c'est plutôt Henri Emmanueli, c'est pas très flatteur comme comparaison.
Oh, il y a Laurent Fabius, il y a Emmanueli,
ah oui,
il y a Mélenchon, il y a Marie-Georges Buffet, mais vous me ferez pas vous. Voilà, j'ai aucune envie de critiquer les uns les autres. Moi, j'ai qu'un objectif, qu'une obsession. Je ne consacre mon énergie qu'à une chose, que le non l'emporte. C'est le seul moyen de remettre l'Europe à l'endroit et de sauver l'Europe.
Oui, alors, je suis pas tout à fait d'accord avec vous. Je crois que c'est très important, au contraire, que les tenants d'un nom de droite se fasse entendre. Ce qui serait il y a deux scénarios catastrophes, à mon sens. Le premier scénario catastrophe, c'est que le oui l'emporte. Le second scénario catastrophe, c'est que le non l'emporte. Et que la conclusion qu'on en tire, c'est que décidément, il faut absolument pas toucher aux droits acquis des fonctionnaires et autres castes privilégiées dans le pays. Parce que ça, ce sera un nom de calcification de tous les défauts français. L'exception française se résumerait à ce qu'elle a vraiment de pire. Donc ce qui est important, c'est que le non l'emporte et que le discours dominant dans le non soit un non non seulement en faveur des valeurs, pour simplifier, disons, de droite, mais aussi de droite européenne, en faveur d'une Europe puissance. Sinon...
Oui, je suis complètement d'accord avec vous. Mais d'ailleurs,
autant presque lui.
D'ailleurs, je peux vous rassurer tout de suite, enfin, même si les sondages, ce ne sont que des sondages et ça peut évoluer, les derniers sondages montrent très clairement que le non vient essentiellement d'un non à la Turquie, d'un non de droite, d'un non pour une Europe puissance, d'un non pour une Europe plus souple, à géométrie variable, qui respecte nos libertés et la souplesse... Les nations, je suis complètement d'accord avec vous.
Et à contrario aussi, en cas de victoire du oui, qu'est-ce qui va devenir Philippe Devilliers? Parce que il y a aussi toujours une ambiguïté. Il ressort et avec talent sur les sujets européens, et puis entre deux sujets européens, ma foi, il redescend, il rebondit, il gère son conseil général. Le grand défaut qu'on lui fait, c'est de le gérer avec une majorité UMP. Donc c'est d'être solidaire de la quintessence des principaux choix gouvernementaux. Qu'est-ce qui va se passer?
Écoutez, il y a deux façons de faire la politique. Ou on fait du romantisme, on fait 15% et on change rien. Il y en a certains qui l'ont fait, ça n'a pas changé grand-chose, malheureusement pour nous. Ou on décide, avec un certain nombre de convictions, de pouvoir gérer le plus de collectivités publiques possible, le plus de mairies possible, et pourquoi pas un jour participer à un gouvernement pour le réorienter. Pourquoi pas ? Ouais, moi j'ai expérimenté les deux, donc je suis très à l'aise, hein. Très à l'aise. Ah, le romantisme pour faire du 15% pour se faire plaisir et pour ne rien changer au final, ça ne m'intéresse pas. Maintenant que ça intéresse certains, tant mieux pour eux.
Au Parlement européen, vous avez mentionné votre groupe pour l'Europe des Nations. Comment il s'appelle ce groupe? Pour l'Europe des Nations?
Oui, exactement.
C'est ça.
Oui.
Donc il y a les Polonais. Parlez-nous un petit peu de votre groupe, de cette polyphonie européenne aussi pour le nom, c'est important.
Ah bah on a 11 nationalités, les Polonais, on a des Suédois, des Italiens, des Danois, enfin il y a un peu de tout, mais et ce qui est extraordinaire c'est que justement moins en France d'ailleurs de manière assez paradoxale et beaucoup en Europe de l'Est, beaucoup dans d'autres pays, il y a l'idée d'une autre Europe, justement d'une Europe des nations, des peuples, des libertés qui est en train de monter, de surgir. On l'a vu, les listes Villiers en Pologne, entre guillemets, j'appelle on fait 25% dernières élections européennes, le même score en Suède. Donc on voit partout en Europe se lever des forces politiques, des hommes et des femmes de bonne volonté, qui ont compris que cette Europe était une Europe de l'impasse et qui veulent construire une Europe de la liberté.
Bon, alors là, vous avez une auditrice qui dit bravo à Guillaume Pelletier, à qui les énergumènes qui sont là coupent en permanence la parole.
Oh,
donc, on est vraiment désolé. Présenter un peu les intervenants, on ne s'y retrouve plus. Donc, Grégoire Gambier, journaliste, Xavier Van Lier, rédacteur en chef de Relève Politique, Patrick PL, journaliste, et votre serviteur Philippe Christel sont donc quatre énergumènes qui coupent la parole à Guillaume Pelletier. Mais vous conviendrez avec nous, chère madame, qu'il s'en sort très bien. Autre auditeur, je suis étonné que vous ne citiez aucun membre du Front National dans les figures de proue du non. Bon, je crois que tout le monde aura compris que, de toute façon, des figures de proue du Front National, je crois qu'il n'y en a qu'une, donc c'est bien le problème. Donc ouais. Tout le monde, on peut citer Jean-Marie Le Pen, c'est vrai, que dont on ne parle pas assez. Que pensez-vous de la position des chefs d'entreprise et des industriels britanniques qui sont contre l'Europe actuelle, facteur de récession, bon, vous en avez parlé, effectivement, si on se fie aux statistiques d'Eurostat, ils auraient bien raison. D'autres messages qui sont dans le même sens, et alors un message particulier, je voterai non pour des raisons diamétralement opposées aux vôtres, je voterai non car cette Europe est trop anti-américaine.
Bon, mais c'est très bien, mais c'est extraordinaire cette campagne. Il y a Christophe Barbier qui est journaliste à l'Express qui l'expliquait de manière extraordinaire. Les oui s'annulent, les non s'additionnent. C'est extraordinaire. Il y a plein de raisons de voter non. On le voit, Jean-Christophe Lagarde à l'UDF, Philippe de Villiers au MPF, d'autres à gauche, tout ça s'additionne. Par contre, dès qu'il y a un gars qui se lève pour voter oui, il fait peur à l'autre oui de l'autre côté. Donc les oui s'annulent en permanence et les non s'additionnent. C'est extraordinaire. C'est pour ça que le non va gagner d'ailleurs.
Alors, puisque le non va gagner, il faut qu'il soit un peu plus tolérant, je le dis pour nos auditeurs qui nous disent, voilà, les arguments subjectifs et pulsionnels des partisans du oui dans votre discussion sont insupportables.
Oh.
Il faut que les partisans du oui à cette table se taisent qu'ils soient intelligents comme Guillaume Pelletier. Oh. Vive le non. mais on ne sait pas qui c'est. Donc,
dommage.
C'est
voilà.
Pour ça qu'on a laissé parler Guillaume Pelletier.
C'est pas quelqu'un de votre famille, Guillaume.
Certainement.
Bon, en tout cas, on va arriver au terme de cette heure de débat. Guillaume Pelletier, quels sont les deux, trois grands rendez-vous que de la campagne du non? Donc vous êtes directeur de campagne, c'est vous qui planifiez le grand dispositif. Peut-être deux, trois rendez-vous, des réunions publiques, des meetings, des messages.
Moi, ce que je dis simplement en français pour répéter, voilà, c'est qu'il y a un numéro de téléphone 0826 10 80 80 pour nous aider financièrement et obtenir
plus lentement, on a 5 minutes là.
08, j'avais peur qu'on n'ait pas le temps.
Si, non, oui. On a toujours le temps pour les appels aux dons.
Le 0826 10 80 80 pour nous aider financièrement et se renseigner sur toute l'organisation de la campagne. Vous trouverez aussi sur ce numéro des indications pour tous nos meetings, une centaine de réunions publiques en France, demain à Cholet, le 31 mars à Marseille, un grand meeting à Paris le samedi 21 mai, et puis vous trouverez tous nos communiqués, tout notre calendrier sur notre site internet lespartisansdunon.com.
Voilà, lespartisansdunon, tout attaché, .com. Donc les auditeurs des Chroniques de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie sont des férus d'Internet, donc ils s'y précipiteront très certainement. Xavier Van Lier, un mot de conclusion de votre part.
Non, en fait, la conclusion, je l'ai dit tout à l'heure, ce qui me semble fondamental, c'est que les partisans du non qui expriment un non fondateur pour une autre Europe, une Europe des identités, une Europe aussi de la puissance, se fassent entendre. C'est là le point fondamental, et c'est la raison pour laquelle je pense qu'il faut effectivement soutenir la campagne que va mener Philippe de Villiers, soutenir pour ceux qui le souhaitent aussi les campagnes, je ne sais pas, de Jean-Marie Le Pen, Bruno Maigret ou d'autres encore, de façon à ce que le nom, de façon, et de Dupont-Aignan, et au contraire, justement, pour ne pas laisser le monopole du nom au nom crispé sur les avantages acquis, ce qui serait déplorable.
Oh, ça donne pas envie de voter.
Rien ne m'effraie, comme dirait Jean-Paul.
Oui, entre autres. Il a dit beaucoup de choses, Jean-Pax. Oui, le problème, donc Grégoire Gambier qui parle,
le problème français,
c'est qu'à chaque fois, moi je vais voter non, bien sûr, à cause de la Turquie, entre autres, mais et principalement. Mais ce qui me gêne, c'est qu'à chaque fois que j'écoute un peu plus de 5 minutes ou que je lis un peu plus qu'un article de journal d'un partisan du oui, de la droite souverainiste ou patriote, etc., ça a plutôt tendance à me faire revenir sur mes arguments initiaux, qui sont des arguments vitaux, parce que quand on vous écoute très franchement, et c'est là que c'est drôle, avec vos arguments sur la liberté des peuples, etc., le refus des carcans et tout, il n'y aurait jamais eu la France. Quand on voit la construction capétienne, ce que ça a été, et pourquoi le pari européen ne serait pas aussi c'est bien. Philippe de Villiers, c'est un frondeur, d'accord. Son école politique, c'est la fronde. C'est très bien. Et on parlait de romantisme, je trouve ça diablement romantique et sympathique. Mais j'ai pas l'impression que ce soit ce qui va quand même mobiliser la jeunesse européenne dans les 30 prochaines années.
Ouais. Patrick PL.
Alors, moi, je suis le seul qui va voter oui autour de cette table.
La campagne n'est pas finie, Patrick.
La campagne n'est pas finie. Je peux être encore influencé. J'écoute les avis de chacun. Parce que le problème qu'il y a dans le nom, je parle pas du nom de gauche. Je pense qu'il a été expliqué tout à l'heure.
C'est moche.
Le nom de droite me semble pas très européen dans sa construction. Et si le nom l'emporte, je pense sincèrement que l'Europe va rester telle qu'elle est. Alors je pense pas sincèrement que ça soit une bonne chose. Rien n'évoluera. Et donc à ce niveau-là, moi je suis prêt à faire le pari sur le oui. Il n'est pas évident, je l'avoue. J'ai hésité, mais je pense que je vais dire oui, parce que le oui à l'Europe, c'est peut-être un peu mieux qu'un non avec une soi-disant Europe des nations, qui de toute façon n'arrivera pas. Il faut jamais oublier que l'Europe, on doit la faire avec les autres nations. Les autres nations nous ont dit clairement qu'ils ne veulent pas de cette Europe de nations. Donc je vois pas avec qui on va faire cette Europe des nations. Donc c'est pour ça que je voterai oui.
L'Europe.
D'accord. Donc on a eu ces conclusions, et avant de laisser le dernier mot à Guillaume Pelletier, d'abord par avance le remercier au nom des chroniques de la vieille Europe d'être venu nous voir. Vous souhaitez bon courage, parce que puisque nous ça nous a fait plaisir de pouvoir traiter de ces sujets avec un aspect générationnel qui est sans exclusive aucune, mais je crois que c'est important. Et puis au moins un des éléments de vitalité de cette campagne, c'est qu'un acteur de premier plan de 28 et les responsabilités que vous avez au sein du MPF et de la campagne. Donc j'espère que cette émission aura été instructive pour les auditeurs. Je vous laisse le dernier mot de la fin et on clora cette heure avant de continuer.
Bon, d'abord, j'ai passé un très bon moment avec vous. Merci beaucoup de m'avoir invité. Ce que je voudrais dire pour conclure, c'est que l'Europe ne sera l'Europe que si elle s'appuie sur le ressort et le dynamisme des nations. Moi, je crois en la France, je crois dans les nations. Pourquoi ? Parce que je pense que c'est l'entité à la fois la plus proche des hommes et la plus grande pour être puissante.
Merci Guillaume Pelletier, bon courage pour cette campagne, et puis on aura bien évidemment l'occasion de reparler ensemble de ces sujets après la victoire, je l'espère, et nous marquons donc une pause pour ouvrir après notre page culturelle. Merci. Bien, nous nous retrouvons pour ce troisième volet, enfin qui est notre troisième demi-heure, mais qui est notre deuxième volet de ces chroniques de la vieille Europe. Nous allons reprendre le cours un peu mouvementé de cette émission. C'est
C'est toujours intéressant de débattre, on voit de ces questions, hein. La France n'est pas le pays gaulois pour rien. On le voit dans les différents messages, beaucoup d'animosité pour les uns et pour les autres. Enfin voilà, c'est comme ça la France, c'est comme ça le débat politique et idéologique. C'est comme ça que la France est grande, SIC transit, patati voilà. Patata. Bon, alors quand même, on va essayer de faire un rapide éclairage parce que de nos fameuses brèves géopolitiques qui ouvrent les émissions. Peut-être, si on devait n'en citer qu'une, le gouvernement, ou plutôt ceux qui s'occupent d'intelligence économique dans le pays, ont avancé, puisque le haut responsable à l'intelligence économique a pu annoncer très récemment le lancement d'un fonds doté de 200 millions d'euros pour défendre les pépites technologiques françaises. Grégoire Gambier.
Oui, c'est l'illustration même d'une synthèse heureuse et possible entre les contraintes, enfin les dites contraintes bruxelloises et les impératifs de puissance bien compris des nations, puisque ce fonds d'investissement donc qui vient d'être annoncé, il faut qu'il se mette en œuvre et surtout qu'il soit voté donc cet été vraisemblablement par le Parlement, enfin le principe même réussit quand même à complaire aux directives européennes qui malgré tout sont de bonnes directives en l'espèce, c'est-à-dire pour limiter l'interventionnisme étatique qui étouffe la France depuis des décennies. Eh bien, on peut faire une politique intelligence donc de fonds d'investissement un peu à l'américaine en mobilisant plutôt des capitaux privés ou des capitaux pour franchement parapluie public dans certains cas, et en gardant juste à l'État pour lui laisser la main le pouvoir de donner un label pour dire oui ou non une telle start-up dans des technologies dites de souveraineté ou en tout cas des technologies sensibles mérite d'être financée et soutenue via l'un de ces 5 ou 6 fonds prévus si je ne m'abuse par le projet d'Alain Juillet et donc de l'équipe qui l'entoure. Donc c'est une bonne nouvelle à la fois pour la France et pour l'Europe. Enfin, la France peut faire des choses, y compris dans cette Europe dont on dit tant de mal. Et malgré tout, quand la France est forte, là, pour le coup, c'est l'Europe qui est forte quand on connaît ses positionnements à l'égard de nos alliés envahissants d'outre-Atlantique.
Xavier Van Lier, d'un complément ou un ajout sur ce sujet ?
Absolument, grand complément. C'est une très belle synthèse. Quant à moi, je voulais parler d'un autre sujet où l'Europe est quand même beaucoup moins perspicace. C'est l'acharnement qu'elle met à essayer de faire miroiter les possibilités d'adhésion à des pays de l'espace ex-soviétique comme l'Ukraine ou la Géorgie, et torpille ainsi le marché économique commun qu'essayait de mettre en place la Russie et qui semblait beaucoup plus naturel et ressortir naturellement non seulement des échanges économiques tels qu'ils existent actuellement, mais de la géographie. Et on sent aujourd'hui précisément que cette réorientation de la politique européenne, et qui va à rebours d'ailleurs des souhaits de la France et de l'Allemagne, est en train de creuser à nouveau le fossé entre le volet est de l'Europe et la Russie et le volet occidental, et c'est là un écueil majeur.
Ouais, alors, allez-y. On va pas refaire le débat, hein, mais lorsqu'on dit que c'est l'Europe, la politique étrangère européenne, or j'ai l'impression que tout le monde s'accorde à dire quand même qu'elle n'existe pas. Les souverainistes pour dire que c'est tant mieux, et les européistes pour dire que il est temps qu'on s'y mette. Parce que quand vous dites ça, effectivement, vous parlez de la politique européenne qui fait miroiter à l'Ukraine ou à la Géorgie, je ne sais pas qui, une intégration dans l'Europe. Non, ce sont des représentants de petites nations européennes, vassalisées par des intérêts.
Mais Grégoire Gambier,
qui s'exprime. Alors effectivement, du haut de leur chair de commissaire européen, mais qui exprime des politiques étatiques, d'état-nation, dont on nous dit que c'est l'horizon indépassable de l'humanité, et on voit bien que c'est plutôt ce qui est en train de faire la cacophonie en Europe.
Bon, on va pas refaire le débat. Je suis obligé
simplement de dire, personne n'est contre cette Europe, simplement il faut constater que ces petites nations, comme vous dites, auront la majorité dans cette Europe-là. C'est une raison, de la refuser, c'est tout.
Bien, alors, et pour vous donner quand même pour vous réconcilier peut-être autour d'une bonne nouvelle, la bonne nouvelle, c'est que aujourd'hui, c'est tout chaud, le CNES, qui est quand même le Centre National d'Études Spatiales, vient de signer l'accord qui était en préparation avec Roscosmos, qui est l'agence spéciale fédérale russe. Le CNES et Roscosmos se mettant d'accord pour développer le nouveau lanceur, donc qui sera franco-russe, qui remplacera Ariane 5, l'idée étant de diviser par deux les coûts d'accès à l'espace, et au au-delà même du renouvellement d'Ariane 5, il y a toute une série de produits, alors je ne vais pas rentrer dans le détail, il y a le réservoir d'hydrogène, il y a les démonstrations de moteurs à oxygène liquide et au méthane, etc., etc. Enfin bref, une fois de plus, au-delà des slogans, la coopération, là c'est une coopération binationale, la coopération binationale fonctionne. Et puisqu'on est dans le trio Paris-Berlin-Moscou, il y a une autre coopération binationale qu'il faut saluer avec l'ouverture en début de semaine de la première maison commune des PME allemandes et russes à Berlin. Et donc là, c'est la coopération davantage économique, mais c'est, semble-t-il, la répartition des rôles que la France et l'Allemagne se sont assignés vis-à-vis de leur partenariat russe. Vous vouliez, puisqu'on parlait de spatial, Grégoire Gambier.
Non, simplement pour signaler quand même l'avancée du projet Galileo. Donc je vous rappelle que c'est donc le concurrent européen, sans connotation particulière, mais concurrent européen donc du GPS américain, qui sera vraisemblablement en plus précis et que son ancêtre donc états-unien. Pour signaler que donc la Commission européenne s'est accordé 3 mois supplémentaires de délai effectivement pour choisir sur l'espèce d'appel d'offre, l'appel à concurrence, mais toutes les puissances publiques font de même entre les différents consortiums qui s'organisent, et l'on voit grâce à cette mise en concurrence entre les différentes industries des pays européens des alliances bienvenues, puisqu'on a d'un côté à l'heure où je parle, il peut y avoir des retournements de situation d'ici 3 mois, mais donc à la fois EADS, Thales et l'opérateur de satellite Inmarsat d'un côté, et de l'autre un groupe constitué d'Alcatel et de l'italien Finmeccanica, et les Espagnols d'ailleurs d'Aena, qui constituent un autre pôle, et ça permet quand même, c'est aussi comme ça que l'Europe, alors qu'elle soit l'Europe des nations là en l'espèce, ou l'Europe puissance que nous attendons, se construit peu à peu, et c'est très bien comme ça.
Oui, c'est formidable que Galileo avance. La seule chose qu'il faut regretter, c'est que les Européens aient plié aux exigences couchées devant les Américains en acceptant un certain nombre de leurs exigences. C'est-à-dire que, on va résumer très simplement, il y avait différentes normes techniques qui étaient possibles pour mettre en œuvre Galileo. Les Américains nous ont demandé de prendre la moins avancée et on a accepté. Ils nous ont demandé également de choisir un autre type de fréquence de façon à pouvoir brouiller ce signal si d'aventure leurs intérêts l'exigeaient. Et là aussi, hélas, nous avons accepté, ce qui est navrant, puisque du coup, le projet devient beaucoup moins, évidemment, alléchant pour un certain nombre de clients sur la surface du globe, et qui pourraient se dire que à tout moment, les Américains pourraient couper ce système, ce qui est vraiment navrant. En gros, Galileo se construit, c'est fort bien, mais malheureusement, il est réduit en quelque sorte à ses aspects commerciaux, ne devient plus ce fer de lance stratégique qu'il aurait pu être.
Oui, il pourrait peut-être redevenir. On rappellera à nos auditeurs qu'effectivement, suite au lancement de Galileo par les Européens, la Russie, la Chine et l'Inde se sont associés au programme pour des montants de 200 à 300 millions d'euros chacun. Je ne sais plus exactement qui a versé quoi, mais il est évident que si l'impact stratégique, militaro-stratégique du projet baisse en intensité, il n'est pas certain que les pays soient aussi intéressés que ça et dans le cœur de ce programme.
Bien sûr, les Chinois, et puis rappelons quand même que les Américains n'ont pas hésité à brouiller les signaux GPS d'un certain nombre de leurs alliés, et des alliés les plus chers, et notamment lors de la première guerre du Golfe, ils n'ont pas hésité à brouiller à couper le GPS aux Israéliens. Leur donner donc la possibilité de brouiller le signal européen, ce n'est pas faire preuve de parano, mais parler d'une occurrence vraiment probable, possible, puisque nos intérêts sont divergents.
Nous sommes totalement d'accord, mais là encore, on ne va pas rouvrir le débat, mais est-ce que c'est la faute de l'Europe, ou est-ce que c'est la faute de l'absence de l'Europe?
Mais Grégoire, je n'ai pas dit que c'était la faute de l'Europe.
Oui.
Ne montez pas sur vos grands chevaux. Je n'ai pas dit que c'était la faute de l'Europe. Je n'ai pas dit que c'était le commissaire européen.
Halte au feu. Bien, on va fermer ce petit quart d'heure de sur nos brèves qui n'auront jamais été aussi brèves. Patrick Péel, vous avez, dans la lecture assidue et néanmoins quotidienne de la presse, relevé un morceau de bravoure un peu croustillant dont vous voulez nous faire part. On va faire un peu d'ethnologie, c'est ça?
Le bolo. Je vais vous parler du bolo. Alors, vous ne savez pas ce que c'est qu'un bolo. Alors j'ai trouvé la définition dans le journal du Monde. Non, c'est pas une nouvelle race de singes. Le bolo est une race d'humains qui est jeune et d'origine européenne. Alors il est considéré comme un pigeon, une victime. Il se fait taper dessus facilement et donne souvent son portable à ses agresseurs. Il ne sait pas se battre et ne se déplace jamais en bande, ce qui est plus facile pour l'attaquer. Je parle aux chasseurs, quoi. Il est souvent lâche, il est souvent blond, porte des fringues de marque, et manifeste contre l'injustice et les réformes scolaires. Alors, je ne sais pas si vous savez exactement de qui je parle, cette définition, ben, je l'ai retrouvée dans Le Monde, effectivement, et elle a été donnée par les casseurs d'origine noire et arabe qui ont agressé les manifestants contre la loi Fillon. Alors, dans ce même article, on trouve le témoignage d'un professeur d'histoire, militant, syndicat Sud Éducation, proche de l'extrême gauche, qui a été bouleversé par les scènes de violence et n'a pas dormi pendant plusieurs jours. Alors, pour ce militant antiraciste, il l'a vu, et je le cite, que des noirs agressaient des blancs. Ouh là là, mais ce professeur va pas bien. On nous a raconté il y a quelques années que le vrai danger venait lors du premier tour d'une élection présidentielle d'un candidat très méchant qui représentait la bête immonde. Je m'en souviens, il y avait plein de petits bolos qui étaient déjà tout petits au départ, qui ont grandi depuis, qui manifestaient, qui disaient qu'on était en danger. Et grâce aux bolos, le danger fut écarté. Donc franchement, je ne vois pas pourquoi il voit maintenant des bandes de noirs qui voudraient agresser les gentils bolos. En conclusion, fallait choisir ton camp, camarade, comme disaient certains militants à l'époque.
Oui, donc tout ça pour compléter vos propos, c'est que toutes les citations que vous avez, tout ce que vous avez dit, ce sont les citations in extenso de deux articles du Monde qui ont été effectivement.
Mais il n'y a pas permis monde. D'avoir ce genre de propos.
Il n'y a que Le Monde qui puisse se permettre ça. Donc Le Monde relatant les exactions,
oui.
les racailles.
Le Monde ose tout, c'est à ça qu'on le reconnaît.
Ouais. C'est incroyable. Alors, autre chose incroyable, je vais reparler un peu de la Turquie. Alors ça, c'est quand même incroyable. Alors, j'ai une question à vous poser. Quelle est, à votre avis, l'une des meilleures ventes de livres en Turquie, en ce moment, actuellement?
Je crois que le Coran.
Vous aviez...
Il y a un piège.
Non, malheureusement, Coran, c'est pas le Coran.
Un livre de religion.
Da Vinci Code.
Non, pas du tout. C'est Mein Kampf d'Adolf Hitler.
Oh là là, bah non, ils peuvent pas venir en Europe.
Et qui
non,
figure depuis plusieurs semaines au palmarès des meilleures ventes des librairies turques. Un engouement qui s'explique, alors selon les spécialistes, alors ça c'est quand même l'argument est fort, par son prix bas. Évidemment, je ne savais pas que le fait de baisser le prix d'un livre à ce niveau-là permettait de le vendre, aussi bien que par une poussée nationaliste. Depuis janvier, Mein Kampf s'est vendu à près de 50 000 exemplaires, et cette semaine, il se classe en quatrième rang des meilleures ventes.
50 000 exemplaires, et c'est le quatrième rang, oui.
Ah oui, bah...
Ah mais ça...
Il y a un lectorat assidu.
La culture européenne... Effectivement, les pro-turcs ont raison, les turcs font un effort pour s'intégrer dans l'Europe, oui. Je suis pas sûr que ça à faire plaisir à Monsieur Jacques Chirac dans cette histoire. Un autre livre qui fait scandale, c'est le livre Pogrom d'Éric Beigné-Burkel aux éditions Flammarion. Alors ça a été une polémique assez drôle. Au départ, le livre a eu de très bonnes critiques. Par exemple, Nouvel Obs a qualifié l'auteur de Célinien en diable, ce qui est plutôt un compliment. Et le milieu littéraire, comme le présentateur Michel Field, ont encensé le livre. Et puis patatras. Une tribune du Monde, toujours le Monde, hein, c'est toujours incroyable, écrit par deux éditeurs, Bernard Comment et Olivier Rollin, considère que le livre est antisémite, dénonçant au passage l'odieux procédé qui consiste à déléguer un vomissement antisémite à un arabe. Il n'a pas échappé à certains, pourtant, que le livre est dédicacé aux Noirs et aux Arabes. Alors, le 17 février, le directeur de la rédaction du Nouvel Obs, Laurent Geoffrin, qui a dû lire entre-temps le livre, s'excuse platement de la critique littéraire classique, trop classique, publiée 3 semaines plus tôt dans son hebdomadaire. L'auteur jette le masque par la dédicace, manière limpide et dieudonnante de dire que les juifs qu'ils insultent dans le roman sont des fausses victimes qui font privilège de la Shoah pour dominer la société française. Même le CRIF et le Premier ministre auront une critique sévère du livre. Je vous donnerai pas d'extrait du livre car franchement j'aurais peur d'être condamné pour haine raciale. Pour ma part, le livre est mal écrit. Ça, c'est une question de style. Mais depuis l'affaire Dieudonné, je trouve que l'on rigole beaucoup entre l'affrontement des intellectuels dits de gauche, qui dans les années 80 avaient comme slogan « Touche pas à mon pote ». Et il est très marrant de voir Olivier Rollin, ancien 68-art, faire le procès d'un auteur pour les propos antisémites de ses personnages. Pourtant, dans son dernier livre « Tigre de papier », Olivier Rollin fait dire à son narrateur, qui a participé à mai 68 et aux années révolutionnaires qui ont suivi, le bidonville, c'était pour les prolos marocains et algériens qui bossaient à Chausson ou à Simca Poissy, des types magnifiques. Rien à voir avec la petite pègre d'aujourd'hui, dont la caractéristique est de jouer du couteau et du pitbull, dealer et racketter, violer, brûler des synagogues, terroriser profs et prolos. Mais dites donc, monsieur Rollin, ne serait-ce pas des propos racistes? Eh oui, les pauvres immigrés ne se tiennent plus tranquilles comme dans les années 70, et on pouvait les exploiter et les payer moins cher qu'un Français. Leurs enfants se vengent et ne font pas de quartier. Ils n'ont aucun respect envers la gauche. Ils adorent le capitalisme sauvage et la violence. Leur héros n'est pas le Che Guevara, mais plutôt Al Pacino dans Scarface, ce jeune Cubain qui fait fortune dans la drogue aux États-Unis. Franchement, les jeunes ne respectent plus rien.
Il n'y a plus de respect.
Non.
Alors, pour égayer le panorama culturel des auditeurs de Chronique de la Vieille Europe sur Radio Courtoisie, eh bien, je voudrais les exhorter à aller se rendre au Salon du Livre, qui est toujours un grand moment dans l'année. Depuis le pays invité d'honneur du Salon du Livre, c'est la Russie. Et donc, faut en profiter. Pays luxuriant, pays de littérature. Et donc, vous avez, c'est l'occasion de se faire un petit parcours russe dans Paris ou à sa périphérie. Évidemment, les librairies font florès font feu de tout poil à l'occasion de ces manifestations. Fayard vient de publier le dernier livre Esquisse d'exil de Solzhenitsyn. Et puis, on ne manquera pas, bien sûr, si on fait le tour des libraires, de passer chez L'Âge d'Homme. L'Âge d'Homme qui est ce rue Férou, c'est-à-dire tout à côté de Saint-Sulpice, et qui a un fond de livres très intéressant. Et puis s'il s'agit de voir, eh bien on pourra retenir deux endroits intéressants. La maison d'Ivan Tourguenieff à Bougival, dans laquelle Tolstoï est passé à plusieurs reprises, et puis le cimetière russe de Sainte-Geneviève-des-Bois, qui est un cimetière particulièrement émouvant. En ce moment, les autorités sont beaucoup dans les cimetières, mais elles peuvent aussi aller faire un tour dans celui-là. Grégoire Gambier ou Xavier Van Lierde, vous avez un livre, Grégoire Gambier, vous avez un livre devant vous, qu'est-ce
non,
que c'est?
Non, oui, non, 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 une revue, c'est le numéro 6 de Géostratégique, consacré au Moyen-Orient, à l'avenir du Moyen-Orient, et qui annonce deux autres livraisons un peu sur le même thème, de la définition du Moyen-Orient et des projets, notamment américains, dans cette région du monde. Alors, je signale simplement cette revue pour deux raisons. La première, donc géostratégique, comme son nom le laisse supposer un petit peu, donc ça fait partie de la floraison d'écrits plutôt intelligents en matière de géopolitique et de stratégie, et donc écrits en langue française. Donc on ne peut que se féliciter de ce regain d'intérêt pour ce courant, enfin ces différentes écoles françaises, donc en langue française, de géopolitique, de polémologie et de relations internationales réalistes. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que c'est le numéro 6, c'est une revue trimestrielle, pardon, mais qui a été quasiment annuelle ces dernières années. Et donc, c'est le numéro 6. Au départ, c'était un petit peu Alexandre Delval, je crois, qui s'occupait de cette revue. Ce n'est plus lui, et cette revue existe toujours. Voilà, c'est celle de l'Institut International d'Études Stratégiques. Alors, il y a pas mal de choses intéressantes, et une fois de plus, ça pose les enjeux. Après, c'est à chacun, en fonction de ses lectures, d'en tirer les conséquences qu'il souhaite.
Merci Grégoire Gambier. Patrick PL, vous êtes allé au cinéma pour nous.
Je vais au cinéma. Je ne sais pas si vous en souvenez, quand on était petit enfant, il y avait à la télé une série anglaise qui s'appelait Les Sentinelles de l'air, Thunderbird en anglais. L'animation se faisait à base de marionnettes qui sauvaient le monde grâce à des vaisseaux et une grosse dose de courage. C'était pour les jeunes adolescents, c'était très bien fait, c'était très sympathique.
C'était pour votre nouvelle race là, dans
les bolos. À l'époque ils sauvaient le monde. Alors vient de sortir une parodie de cette série faite par les Américains qui s'appelle Team America Police du Monde. Alors Team America est une unité d'élite qui se bat sous toutes les latitudes pour assurer notre sécurité. Apprenant qu'un dictateur mégalo s'apprête à livrer des armes de destruction massive à une organisation terroriste, le groupe se lance une fois de plus dans la bataille et les dégâts collatéraux ne sont pas oubliés. Une parodie des auteurs de la série South Park, drôle, mais parfois un peu lourdingue et vulgaire, mais qui est très efficace. Et tout le monde en prend pour son grade, les pros comme les anti-guerres. Alors, Libération, Le Monde, Les Inrocks, Cuptible, l'humanité n'ont pas aimé. Même Le Figaro et Télérama. Donc franchement, il faut aller le voir. C'est bon signe. C'est franchement drôle. Les Américains savent de temps en temps se faire de l'humour sur eux-mêmes. C'est franchement à déconseiller aux enfants.
Il paraît que la Maison Blanche a fait part de son courroux en disant que c'était un film antimilitariste.
Complètement, bon. Il paraît. Bon, enfin, c'est des marionnettes qui jouent le...
Ah bon.
On ne sait pas qui tire exactement les ficelles des marionnettes ce jour-là. Autrement, à voir absolument, alors ça c'est peut-être un peu plus sérieux, mais il faut le voir, c'est les dessins cachés de Gustav Klimt au musée Mayol. On présente les dizaines d'études de nus qu'a réalisé le peintre viennois. Ces dessins n'ont jamais été exposés, ils ne sont pas des études pour ses tableaux. Klimt s'est fait plaisir. En quelques traits, il exprime la beauté à l'état pur, dans des poses parfois très sexuelles. Mais quand l'art atteint ce niveau de perfection, il n'est jamais vulgaire.
Et où est-ce qu'on peut la voir, cette exposition?
Musée Mayol.
Musée Mayol, très bien. Alors, je profitais de cette... pour lire un message d'auditeur qui nous reprend sur notre Babil. Donc nous employons le mot argumentaire à la place du mot argument ou argumentation. Nous confondons souvent les adjectifs et les substantifs.
C'est
nous
vrai?
Employons le mot au final à la place du mot finalement. Avez-vous peur des adverbes, demande cet auditeur. Donc voilà, c'était la minute
du docteur
de l'Académie
Capello.
Française.
Très bien.
Non mais c'est vrai, il est important que les auditeurs de Radio Courtoisie nous rappellent. Oui. Je sais qu'il y a eu aussi quelques liaisons
de
douteuses. Il y a quelques devra-être, etc. Ouais. Donc, mais dans le feu de l'action, vous savez, chers auditeurs, on fait quelques liaisons dangereuses, mais on espère qu'on n'en fera pas plus que ça et on espère qu'on va se surveiller.
Ouais. Les auditeurs de Radio Courtoisie ont droit à un français châtié.
Oui, parce que plus ça va et moins il y en a, comme dirait l'autre.
Et puis avec cette Europe qui arrive. Bon.
Allez, une dernière brève avant de conclure.
Juste une dernière qui est peut-être importante. Il va falloir faire attention à ce qu'on écrit sur Internet. Sous prétexte de lutter en vrac contre le racisme, l'antisémitisme, la contrefaçon, la pédophilie, les pouvoirs publics et les fournisseurs d'accès se sont associés dans le cadre de l'opération Net Plus Sûr. Ainsi, l'association des fournisseurs d'accès encourage les internautes à signaler les abus sur un site prévu à cet effet. Je dirais pas le site, sur lequel ils peuvent procéder à des dénonciations anonymes de propos tenus par des tiers sur des forums de discussion, par email ou sur des sites web. Déjà 900 signalements auraient été transmis à la police ou comment réhabiliter tranquillement la pratique honteuse de la lettre anonyme. Sincèrement, je trouve ça scandaleux. Voilà.
Bien, merci. Mais écoutez, c'est sur ce message de vigilance que nous nous quittons. C'est important d'avoir des messages de vigilance, hein, puisque généralement, ce sont nos adversaires qui sont très vigilants. Donc nous, on va être vigilants aussi. Ils vont voir ce qu'on va voir.
Ça nous change des messages d'espoir.
Voilà, et des appels aux dons.
Voilà.
merci à vous trois pour le débat vivant que nous avons eu et qui, j'espère, aura plu à nos auditeurs, même si certains s'en sont offusqués dans un sens comme dans l'autre. Donc Xavier Van Lier, rédacteur en chef de Relève Politique, merci. Grégoire Gambier, journaliste, et Patrick PL également. Nous allons clore cette émission des Chroniques de la Vieille Europe et nous nous retrouverons donc dans un mois, l'occasion certainement de faire le point sur les avancées dans cette campagne électorale en vue du référendum, voir si le oui a avancé, si le non a avancé. Et puis comme ça, on saura ce qu'il faut voter pour se rallier au camp qui aura gagné.
Bah oui, c'est encore la meilleure solution.
Bonne idée. Allez, eh bien bonsoir à tous les auditeurs de Radio Courtoisie.
Some things in life are bad, they can really make you mad. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.